Gameblogueuse, gameblogueur, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour un nouveau podcast de la rédaction. Avec moi aujourd'hui, nous avons Julo.
Salut.
Nous avons Thomas.
Hello, hello.
Et nous avons quelqu'un qui pionce, à savoir Romain.
Bon, voilà, ça y est.
Ou plutôt, devrait-on dire Papa Romain, félicitations
Papa
encore une fois.
Bonjour les enfants.
Tu vas nous vendre des Vertars originales bientôt, non?
Ah, je vais vous raconter des histoires.
Ouais, j'imagine. Bon, ça va, tu n'étais pas trop fatigué?
Ça va.
Bon, t'as eu plein de messages, hein,
Oui, 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 j'étais extrêmement touché. Merci à tous d'avoir laissé un petit message et d'avoir été si gentil avec moi. Et toute cette bienveillance me fait chaud au cœur.
Alors qu'une petite, la petite fille s'appelle Trace, quand même. C'est quand même.
À l'état civil, ça a été un peu compliqué. Il a fallu convaincre, il a fallu que je montre quelques vidéos et quelques extraits de texte. Et après, c'est passé.
Pour
mieux.
Que les gens comprennent, il fallait au moins ça. Alors, le podcast de cette semaine sera évidemment dédié à l'actualité. En premier lieu, on va faire le sommaire. Le thème numéro 1 de la semaine, ce sera Red Dead Redemption 2, puisque vous l'avez vu la semaine dernière, il y a eu un nouveau trailer. On va en parler tous ensemble. Je crois qu'on n'est pas tous aussi chaud. Moi, perso, je suis carrément sur la lune au moment où on parle. On en parle tout à l'heure. On va parler aussi, évidemment, de Shenmue 3, parce que là aussi, il y a eu une petite vidéo. Bon, c'est pas la même excitation.
Et là aussi, tout le monde ne sera pas d'accord.
Et là, tout le monde ne sera pas d'accord non plus par rapport à ce carnet de développeurs qui a beaucoup fait parler et qui donne quelques frayeurs un petit peu aussi à la rédaction. Nous finirons évidemment avec un récap plus ou moins long des tests de la semaine. Et puis on va commencer immédiatement avec, messieurs, le win de la semaine. Thomas, je me tourne vers toi parce que c'est un sacré win du côté de chez PlayStation.
Tout à fait, l'annonce est sortie il y a quelques jours. Ce sera donc les jeux PS Plus du mois d'octobre avec en vedette MGS5, ou plutôt devrait-on dire MGSV. Si vous l'avez fini, vous savez de quoi je parle.
Oh, le spoil.
Voilà.
Ça y est, je viens de deviner. Oh, le spoil.
Et voilà.
Mais je savais pas, moi.
Et oui, je l'ai fait corriger à plume quand on a fait la news. Et du coup, grosse affiche quand même de la part de Sony, parce que c'est un jeu majeur. Moi, personnellement, c'était mon GOTY 2015, donc c'est un jeu auquel je suis très attaché. C'est pas un petit jeu gratuit, là, en l'occurrence, c'est des dizaines.
Tout le monde n'est pas d'accord.
Et des dizaines d'heures. Ah, mais je sais bien que c'est un jeu qui a.
Un jeu qui divise, en fait.
Qui a divisé, tout à fait.
Enfin, rendu compte quelques mois après, finalement, qu'il divisait.
Moi, ça a été un coup de cœur phénoménal. Vraiment, je n'ai que de l'amour pour ce jeu. Et ça sera donc l'un des jeux PS Plus proposés pour le mois d'octobre aux possesseurs de. Enfin, aux titulaires de l'abonnement PlayStation Plus. Alors qu'en face, chez Microsoft, clairement, ça a du mal à suivre, puisque les jeux qui ont été annoncés ce mois-ci, alors, ça ne retire en rien leur qualité, mais c'est notamment Gone Home et The Turing Test sur Xbox One. Forcément, face à un des derniers chefs-d'œuvre en date de Kojima, ça pèse pas lourd.
Ouais, oui, c'est bon, après, il est arrivé que ce soit souvent le contraire. Aussi,
effectivement.
Hein, mais là, je suis d'accord avec toi, il faut pointer du doigt que c'est un super jeu qui arrive gratuitement, mais toutes les fois où c'était vachement mieux du côté de la Xbox, on l'a pas forcément souligné.
Bah voilà, le fait que ça soit en win cette fois, ça montre aussi les lacunes qu'il y a pu avoir par le passé du côté du PlayStation Plus. On n'a jamais ressenti l'envie d'en parler précisément.
C'est vrai que cette année, en 2017, il n'y a pas eu non plus des jeux forcément incroyables.
Il y a toujours, je dirais régulièrement, des petits jeux, c'est un peu réducteur. Parfois, c'est des super jeux.
Non, des bons petits jeux, j'ai dit.
Voilà,
mais il n'y a pas des gros blockbusters
comme
celui-ci.
De cette envergure.
Exactement, là, c'est carrément un blockbuster.
Là, ça vaudrait carrément le coup, limite, de prendre un abonnement d'un mois pour pouvoir en profiter. Pour
le choper gratos, et puis voilà.
Et rusher aussi, peut-être 3 mois du coup.
Ouais, faut peut-être prendre un abonnement 3 mois, c'est clair.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les possesseurs de PlayStation 4. Oui,
sachant que le prix du PlayStation Plus a augmenté récemment de manière quand même assez sensible.
C'est vrai.
C'est un bon moyen aussi d'aider à
faire passer la pilule,
en mettant un plus gros jeu en PlayStation Plus, parce que quand l'annonce de l'augmentation du prix a été faite, dans les commentaires qu'on pouvait lire à droite et à gauche, disait ouais, non seulement vous augmentez le prix, mais en plus les jeux offerts avec le PlayStation Plus, c'est pas toujours
peut-être que c'est ça le premier effet de la hausse de l'abonnement, c'est qu'on va avoir en plus des gros blockbusters de cinglés. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être prochain.
Ça peut aider.
Ça se trouve, c'est ça. Hein. Ça se trouve, c'est comme l'augmentation des. La baisse des APL.
Je pense pas qu'il y aura un blockbuster récent tous les mois.
Qui sait?
Non, peut-être pas tous les mois.
Non, okay. Mais ça marque le coup en tout cas, et du coup, on le souligne.
Absolument. Et on va passer maintenant au fail qui lui est très drôle, mon cher Julo.
C'est vrai que c'est pas mal cette histoire. Alors, le fail du mois, il revient à Manolo Lama. Est-ce que vous savez qui c'est?
Oui,
le frère de Bernard Lama.
C'est pas le frère de Bernard Lama. Non, il est espagnol et il a fait une grosse gaffe qui nous a fait rire. Et surtout que.
Il est espagnol, mais il fait quoi dans la vie?
Elle est disponible en vidéo cette blague, donc vous allez voir ça sur la news. Donc, Manolo Lama, il est doubleur. Il est commentateur de football. Ouais. Et c'est lui la voix officielle des commentateurs, des commentaires de FIFA depuis quelques années.
Depuis 98, je crois.
Voilà, donc c'est, ça fait un bail. C'est leur, j'allais dire Thierry Roland, mais il est encore là, lui. Mais bref, c'est
il est un peu plus jeune, lui aussi.
Une voix iconique du football. Ah. Et donc, alors ce qui est assez drôle, c'est que le gros fail qui lui a valu une espèce de facepalm d'un directeur de la communication d'Electronic Arts qui était sur le plateau d'une radio, la radio Copé.
Oui, une radio très décalée.
Voilà. C'est qu'en fait, il était en communication au téléphone, donc notre ami Manolo Lama, et il parlait du FIFA sur le plateau en compagnie donc du directeur de la communication espagnole d'Electronic Arts. Et à un moment, l'animateur dit « Alors, est-ce que vous allez faire une version Coupe du Monde de FIFA cette année avec le nouveau FIFA ?» Et alors là, on voit le directeur de la com, parce qu'évidemment, ce jeu n'a pas été annoncé du tout, le directeur de la com qui commence à faire « Non, 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 du doigt comme ça, puis l'autre qui est au téléphone et qui dit ah oui 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 d'ailleurs je vais faire les doublages au mois de décembre et je crois qu'il sort en mars avril quelque chose comme ça. Et là tu vois le mec d'Electronic Arts sur le plateau qui fait merde, qui se tire la tête comme ça. Donc voilà, une grosse bourde qui a eu le mérite de nous dévoiler qu'un FIFA Coupe du Monde de 2018
en même temps, c'est une surprise.
C'est pas vraiment une surprise. C'est pas vraiment une surprise. En tout cas, bon, il y a bien une version Coupe du Monde qui est en route. Après, ce qu'on sait pas, c'est si ça sera un jeu à part, comme ça a été le cas de temps en temps, ou une espèce de DLC, ce qui a été le cas ces deux dernières coupes.
Coupe du Monde.
Donc,
ouais.
Voilà. Non, Coupe du Monde et Coupe d'Europe, ça a été ça.
Absolument.
Bref, à voir, mais en tout cas, voilà, soyez rassurés, FIFA va bien vous parler de la Coupe du Monde bientôt.
Une édition Vladimir Poutine.
Et donc, vous pouvez regarder le facepalm du mec.
C'est, sur, ces situations-là m'étonnent toujours parce que nous, on est habitués à signer des NDA qui nous disent bon, vous pouvez pas parler du jeu avant telle date, etc. Des jeux comme les GTA, Rockstar fait signer des clauses de confidentialité de ouf à ses comédiens pour pas qu'ils en parlent, etc.
Carrément, c'est
et, ça. Et de temps en temps, il y a encore des intervenants comme ça qui ne sont pas soumis à des NDA ou à ce genre de choses.
Mais peut-être qu'il a oublié surtout.
Ah ouais, bah
je pense qu'il était là, ouais, bon bah voilà.
Il passe pas sa vie à enregistrer des commentaires pour le jeu vidéo, donc le mec est peut-être un peu plus extérieur que ça justement à la situation.
Bah justement.
Et ça lui a peut-être un petit peu, enfin ça lui a certainement d'ailleurs échappé.
Ouais, mais c'est justement ça, quand t'es pas habitué à signer des clauses de confidentialité, quand on t'arrive à en signer une, bah tu t'en souviens parce que c'est inhabituel justement. Et les éditeurs sont tellement pointilleux avec ça et tellement même chiants par moment qu'ils assurent pas leurs arrières comme ça.
Ils sont peut-être moins chiants en interne.
Ça m'étonnerait.
En interne, c'est peut-être autre chose.
Oui, parce que ça tombe sous le sens.
Ouais, voilà, une confiance immédiate. Et là, c'est quand même un intervenant extérieur, le mec.
Tacite.
C'est comme si Hervé Matou chez nous faisait filtrer le truc, tu vois. On peut l'imaginer, quoi. C'est pas si surprenant que ça.
Enfin bref,
je me demande même pourquoi ça arrive pas plus souvent, ce genre de truc, finalement.
Ouais, c'est vrai.
Avec tous les gens qui travaillent sur les jeux, sur les localisations, sur. Tu te dis. Il doit bien y avoir des gens qui vont faire fuiter ce genre de trucs et
des
ça n'arrive
taux,
pas
quoi.
Si souvent que ça en fait.
Bah ouais, c'est dommage pour Red Dead Redemption 2 dont on va parler dans notre premier thème par exemple, puisque j'aimerais bien savoir si la voix de John Marston va être recrutée à nouveau pour ce deuxième épisode. Donc premier thème de la semaine, Red Dead Redemption 2 qui est revenu dans un nouveau trailer, on va dire classique mais efficace, un peu court
un
aussi.
Un trailer Rockstar.
Un trailer à la Rockstar pour dire voilà, on revient dans le game. On va pas en montrer trop, mais on va quand même vous en laisser un petit bout.
Donc, petits extraits hachés de dialogues, tu sais, de scènes qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Enfin, c'est vraiment du pur Rockstar, ce trailer.
En tout cas, ce que ça a pu nous confirmer, et ça, pour ça, il faut voir la fin du trailer pour en être sûr, c'est que ce jeu sera bien une préquelle, puisqu'on y aperçoit le grand méchant de Red Dead Redemption, à savoir Dutch van der Linde, qui était donc, on va dire, le patron de John Marston à l'époque où il était gangster. On l'aperçoit à la fin discuter avec celui qui est présenté comme le nouveau héros et qu'on voit ici pour les premiums en gros plan, Arthur Morgan, dont on ne sait strictement rien, hein, puisque Rockstar vraiment a été muet sur tout ce qui entourait le trailer et tout ce qui entourait le jeu. Ils ont juste dit suivez les pas d'Arthur Morgan avec le gang Van der Linde, pour dans une nouvelle aventure dans l'Ouest, et on n'en sait pas plus. On sait pas non plus qui est la jeune femme qui est ici. On voit pas mal d'éléments qui nous laissent à penser qu'on va évidemment se balader partout. Alors on ira évidemment dans l'Ouest classique, j'ai envie de dire, dans les montagnes et aussi en Louisiane, qui sont représentés avec avec des marécages dans lesquels on va pouvoir nager, mine de rien. Oui, c'est du bayou, absolument, du bayou Billy, et on va pouvoir peut-être nager dans Red Dead Redemption avec des crocos. Croco, séance du croco qui permet de voir que la faune va
Est-ce
peut-être
qu'on va pouvoir se faire des belles bottes en croco.
Va peut-être s'agresser entre elles, tu vois, genre
comme si dans Assassin's Creed.
Exactement. Donc ça fait partie des choses qu'on a vues. Alors Pour les premiums, on a vu quelque chose dès le départ. Poufy, il va falloir que tu fasses un petit rewind. Parce qu'il y a quelque chose. On parlera de la technique après.
On fait des focus sur absolument n'importe quoi. Hein.
Voilà, alors, il faut voir que le cheval, eh bien, il a une paire de.
De baloches. Bref,
de coronesses.
Voilà, il a des baloches, absolument. Et des baloches qui sont super bien animées.
Ouais. Oui, tout à fait.
C'est vrai.
Et là,
tu l'avais pas vu, je viens de le voir en fait. Là.
Et c'est là que Rockstar, c'est des génies quand même. Hein, parce que ils arrivent à nous faire détourner l'attention là-dessus.
c'est le testiculing.
Ah ouais, non mais là
un effet de testiculing assez impressionnant quand même.
Mais quand tu sais que les gens vont disséquer le moindre plan de ton trailer, etc., tu portes l'attention
tu
aussi à ce genre de petits détails et voilà, résultat, on en parle.
Absolument, on en parle, mais on va pas parler que de ça. Évidemment, déjà j'ai envie de connaître votre sentiment vis-à-vis de ce trailer que personnellement j'ai regardé environ 200 fois. Je sais que chez...
Ça y est, tu le connais par cœur ?
Oui, chez les lecteurs, on a fait un petit sondage justement pour savoir ce que vous en pensiez. Vous, de votre côté, vous êtes 25% à le trouver fantastique, 41% à dire que c'est pas assez, ce qui peut se comprendre, 15% qui ne sont pas tout à fait convaincus et 17% qui répondent carrément tout ça pour ça. Ça peut se comprendre.
Ça fait une
aussi.
Grande majorité de gens plutôt déçus alors.
Bah oui, parce que forcément quand t'attends un jeu comme ça, t'as envie qu'il y ait beaucoup plus d'éléments à l'écran, mais enfin. En ce moment-là, je trouve qu'on en voit déjà pas mal.
Je pense qu'on va rentrer bientôt dans la phase. Vous vous souvenez de la période de communication avant la sortie du premier Red Dead Redemption ? On avait des vidéos toutes les semaines.
Oui, absolument.
Qui commençaient toutes par dans le monde de Red Dead Redemption.
Ouais,
ça rappelle de ça ? Bah, je pense qu'on va arriver à ça bientôt parce qu'on va nous expliquer tout l'aspect, tous les systèmes quoi, hein, qu'il y aura dans le jeu, toutes les nouveautés, etc. Là, on reste encore dans le trailer de. Comment dire, dans le teasing un peu quelque part. Ce que je trouve vachement bien foutu, c'était déjà le cas dans la première vidéo qu'on avait vue, mais elle disait vraiment rien du tout.
Oui, puis c'était un peu de la CGI, hein, la première.
Voilà,
là tu vois que c'est du moteur. Là
on voit que c'est du moteur, d'ailleurs c'est peut-être ça qui déçoit un peu les gens, c'est qu'on on voit que c'est pas dingue visuellement, mais que.
En fait, c'est que.
C'est pas si impressionnant que ça. En
termes d'animation, etc. Là encore, c'est du pur Rockstar. On reconnaît le style de motion capture qu'on pouvait voir depuis GTA 4, etc. En fait, la mise en scène, elle est pas déjà vue, mais presque. Tu vois, il y a une petite.
Elle est signée, on peut dire.
Il y a une petite impression de familiarité. Il y a pas vraiment la grosse surprise qu'on peut attendre avec un, je sais pas, peut-être un nouveau moteur ou
un
des choses comme ça.
Quoi.
Voilà. Là, c'est on est en terrain connu. Là où les choses changent vraiment, finalement, c'est les environnements. Il y a plus de variété dans les environnements, etc.
Là, moi,
par exemple,
retiens...
la toute petite séquence sur le bayou. Moi, c'est vraiment le truc que je retiens. Curieusement, c'est vraiment la zone que tu vois là. Que j'ai envie de découvrir, mais c'est vrai que pour le reste, si on te disait que c'était un director's cut du premier Red Dead Redemption, tu serais pas plus étonné que ça, tu vois. Bah après, évidemment, il y a des améliorations techniques depuis, mais
après, c'est pas ça qui fait un bon jeu.
Non, bien sûr que non.
Mais moi, ce que je retiens, donc c'est un peu comme Romain, moi, c'est les panoramas, quoi.
C'est ce qui m'a bluffé aussi.
Celui du début, il y a le bayou, effectivement, qui donne une impression complètement différente, parce que déjà, c'est de nuit, en plus, il y a des animaux, enfin, c'est le bayou, etc. Voilà, ça, c'est juste magnifique ce qu'on est en train de voir.
Les attaques de crocodiles et tout ça.
Voilà, je retiens ça, et je retiens aussi, quand même, la qualité du rendu des visages et des animations faciales.
Encore une fois.
On va reparler d'animation faciale, je pense, dans un thème.
Ça le fil rouge de la journée,
c'est le fil rouge, voilà.
L'animation faciale du directeur marketing d'eSports, maintenant celle de Red Dead, et après on parlera de celle
de la synchro labiale aussi. Enfin, tu vois vraiment au niveau de l'articulation de la mâchoire et tout, ils ont poussé quand même le souci du détail très très loin.
Ils ont une technologie qui est extrêmement forte depuis longtemps, depuis GTA 4, me semble-t-il. Ils ont une technologie de reconnaissance faciale.
Ça s'améliore à chaque fois.
Autant le reste du moteur peut-être n'impressionne pas autant et donne pas l'impression d'avoir progressé énormément. Autant là sur les visages, c'est assez cool et c'est important les visages quand même. Et puis tu remarqueras qu'ils donnent pas du tout ce sentiment d'Uncanny Valley là.
Qu'il y avait dans L.A. Noire un peu.
Voilà. Donc on sait que ça va être un super jeu, honnêtement. Enfin, je veux dire, voilà.
Je suis pas inquiet du tout.
Ça fait bien son boulot, je trouve que c'est un bon teasing. Maintenant, je suis impatient d'avoir les premières vidéos. J'espère qu'il n'y en aura pas autant que dans le premier épisode, mais parce que t'avais l'impression de connaître tout le jeu.
Non, parce que là, ils ont plus besoin de convaincre les gens.
Ouais, c'est ça, ouais, certainement. Ouais.
Les gens sont comme des fous avec
Red Dead. Vous avez vu, il y a le coup du lasso aussi. C'est assez mal fait le lasso. Ça fait un peu
La physique du lasso est peut-être pas le truc.
Le lassoing est moins réussi que le testiculing.
Non, mais c'est peut-être pas le truc qu'ils ont le plus réglé non plus.
Si votre testiculing se rapporte à votre lassoing.
Ils ont préféré mettre toute la technologie.
Ils ont tout mis dans les couilles.
Exactement.
Rien dans le lasso. Tout dans les couilles.
C'est un peu ça ce qui nous en fait Rockstar. Bon, on peut parler un petit peu justement des éléments de gameplay qui sont quand même visibles dans le jeu.
Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire, dis-moi.
Eh bien, par exemple, on a vu un arc.
Ah oui.
Pour la chasse, c'est quand même beaucoup mieux d'aller chasser un lynx qui peut te sauter sur la gueule et qui peut te tuer en deux coups de griffe.
C'est mieux avec un arc qu'avec un flingue, tu
vois. Bah, je pense que c'est beaucoup plus discret.
Oui.
Je pense que c'est plus discret.
T'attires moins l'attention.
Et t'as peut-être plus de chance de pas attirer son attention directement sur toi.
Alors attends, je m'imagine dans une forêt, ok, il y a un lynx.
Bah, je sais pas, tu marches.
Est-ce que je préfère avoir un arc ou un flingue?
Bah, pour le premier coup, celui où il t'a pas vu, oui, il vaut mieux avoir un arc.
Si je le rate, ouais.
Bah, si tu le rates, tu t'en fous, mais imagine. Enfin, t'arrives à un ours, tu tires avec ta pétoire. Là, déjà, un, il entend le bruit, deux, il dit j'ai mal, et puis là, il fait oh bah tiens, il y a un humain là, je vais le défoncer. Ouais. Voilà,
bon,
alors
autant je suis
arc,
pas convaincu forcément de la raison pour laquelle c'est cool d'avoir un arc, mais c'est juste cool d'avoir un arc en fait.
T'as pas vécu assez en forêt en fait, je crois.
Et en plus, la végétation.
Dans Assassin's Creed, je suis content qu'il y ait un arc.
Dense.
Oui, c'est vrai.
C'est beaucoup plus dense.
Ça a l'air beaucoup plus dense.
L'arrêt sur image qu'a fait Poufy, je sais pas si c'est actuellement ce qui est en train d'être montré pour les premiums, mais même la lumière qui passe dans la végétation, etc., c'est plus sophistiqué à ce niveau-là. Et moi, je me souviens de coups de stress assez conséquents dans le premier. Quand je me faisais attaquer par des ours que j'avais pas vu venir en fait. Non, j'étais en train de faire mon affaire.
Ah ouais, je comprends.
Du coup, je me fais sauter dessus par un ours.
Ah non, moi c'était les lynx, saloperie de lynx.
Et là, vu que la végétation est encore plus dense et plus variée, enfin, donc je pense qu'on va être amené à se retrouver face à des animaux encore plus nombreux et tu les verras encore moins venir finalement. Et ça va être chouette.
Et ça fait immédiatement penser à Breath of the Wild. Enfin, je sais pas vous, mais oui. c'est pas possible quoi. Maintenant, à chaque fois que je vais voir
un café,
Non, bien sûr que non. Mais par contre, je peux pas imaginer que ça a pas influé à un moment ou à un autre, pas pour l'arc, hein, bien sûr, hein, mais pour tous les développeurs qui sont en train de travailler sur des jeux en monde ouvert.
Chez Rockstar, je sais pas.
Systémique, etc.
Bah, je pense que Rockstar,
parce
déjà,
ils font leur truc.
C'est sur l'aspect systémique. Je pense
moi, je pense déjà que quand ils ont vu The Witcher 3, ils se sont dit, bon, on va essayer de bosser un peu plus encore.
Ouais.
Je pense que The Witcher 3 a dû leur mettre un petit peu la pression. Et Zelda, oui, forcément, toutes les possibilités de Zelda. Et son moteur physique, évidemment que bah voilà, ça a dû influer sur les couilles du cheval.
Par exemple, ouais.
Voilà. Je pense qu'à un moment, on pourra donner des coups de marteau sur les couilles du cheval qui sera figé comme ça et on pourra décoller comme
mais
ça sur les couilles
du cheval.
Qu'est-ce
que tu racontes? Non, ça y est, tu vas trop loin.
Ouais, je sais, je vais un peu trop loin. Autre chose qu'on peut voir, c'est donc qu'il y aura des braquages, évidemment, avec des braquages de train aussi. Ça, c'est forcé avec un western. Chose sur laquelle on peut revenir également, c'est le fait que le héros, Arthur Morgan, à un moment, dans une séquence qu'on va baptiser la séquence des cils, donc la séquence que Poufy a souhaité dire comme
un peu ratée. Mettre en lumière, en tout cas.
Voilà, il a souhaité la mettre en lumière. On voit qu'il a deux flingues. Et donc, à tous les coups, on va se retrouver avec un flingue dans chaque main sur certaines séquences, ce qui peut être une bonne chose, ce qui peut être rigolo, plutôt que d'avoir un seul pistolet. Et bah,
mais
hop.
Poufy, t'es un grand malade.
Oui, Poufy est un grand malade.
T'es un grand malade.
Mais il faut des gens aussi méticuleux comme ça.
Ouais. Bah, moi je trouve que ça va, hein, mais bon.
Mais non, mais c'est à quel moment, enfin, comment t'as pu le voir en fait avant que ça.
Ouais, voilà, il va dire que c'est moi qui l'ai vu. Non,
c'est
je l'ai pas. Mais non, mais je l'ai même.
C'est
pas moi.
Grand malade,
non,
en fait.
Non, c'est pas moi.
Bon, il est
c'est...
pas si mal fait ce seal. Puis
non, il est pas mal.
Non, et puis en action, en même temps, tu t'en fiches.
Un dixième de seconde, quoi.
Non, il
mais
est
aussi,
pas
si mal. Il va falloir garder à l'esprit une chose, c'est que Red Dead Redemption 2, c'est un jeu en monde ouvert et avec une map qui risque d'être conséquente. Et on sait très bien depuis GTA sur PS2 que les jeux en monde ouvert, bah, ça te demande de faire des concessions sur certains éléments, dont la modélisation des personnages, parce que t'as des zones tellement vastes à affiché avec tellement de choses.
Oui, enfin, là, on est en train de parler d'un truc qui est tellement anodin.
Oui, c'est clair.
Mais ça, c'est Poufy de toute façon. Hein. C'est tout Poufy, ça. Chaque fois qu'il y a un truc comme ça, il arrive et fait hey, à propos, regardez, ça s'est mal fait.
Bah, l'effet de ceiling est peut-être pas au niveau,
voilà.
Peut-être pas au niveau du couilling.
Ah, ça, le couilling, il est plutôt bien fait. Dans les autres
on va pas
éléments...
s'en remettre de ce truc, je pense.
Non, je pense
que dans tous les prochains trailers de Red Dead Redemption, dès qu'il y aura un cheval, on va. Ah,
mais
attends.
Ils l'ont fait exprès.
Alors, on a dit tout à l'heure que ça confirmait le statut de préquel du jeu parce qu'il y a la présence d'un personnage du premier épisode, enfin de Red Dead Redemption, pardon, qui est largement rajeuni. Il parle.
Obligé, on va jouer avec Marston. Enfin,
alors,
c'est obligé.
Ah, bah attends. On va revenir là-dessus juste après. Il y a plusieurs questions qui se posent, notamment sur Arthur Morgan, son rôle exact, parce que c'est pas un personnage qui a été mentionné dans le premier Red Dead Redemption. Savoir.
C'est pour pas que t'aies d'a priori négatif sur lui, c'est pour ça.
Qui il est exactement, d'où qu'il vient, qu'est-ce
qui
qu'il fait. On sait que visiblement il est très pote avec Dutch van der Linde, puisqu'il dit à la fin qu'il va toujours être là pour le soutenir. On voit aussi qu'il a pas l'air spécialement sympathique.
Commode.
Ouais, il a pas l'air très commode. Hein, parce
je sais
qu'il
pas,
est
moi je trouve qu'il fait gentil. Moi.
Il est plutôt menaçant vis-à-vis de dans les quelques répliques qu'on voit. Vous voyez, là, le première personne qu'il voit, il dit bon bah t'as mon fric. Ensuite, il va dire bah tiens ta mère, ouais, là, bon. elle est veuve. Bon, je crois qu'elle peut être veuve une deuxième fois. fois hein, si jamais je te bute. Enfin, on sent qu'il a pas l'air super super sympa.
Chasseur de primes peut-être.
Non non non, il est.
Bah,
il
c'est
est
un bandit donc.
Il est hors la loi.
C'est peut-être pour montrer sa détermination aussi. Hein. Le mec rigole pas, qu'il soit bon ou méchant.
Mais après, est-ce que il serait le seul personnage jouable de cet épisode? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. On voit quand même assez longtemps une jeune femme blonde, alors que certains pourraient prendre pour la femme de John Marston qui faisait partie du gang Vanderlinde. Alors, à moins qu'elle se soit teint les cheveux et les yeux, je pense que c'est impossible.
Y en a qui... les cils.
Et les cils aussi, oui. Y en a qui pourraient penser que ce serait Bonnie, donc, qui est le personnage qui secourt John Marston au début de Red Dead Redemption et avec lequel on sent qu'il y a une... un petit début de, d'histoire un peu romantique. Ça voudrait à ce moment-là, si c'était elle, mais encore une fois ça paraît compliqué, ce serait peut-être que le jeu nous ferait voyager dans le temps à travers plusieurs époques. Je suis pas trop fan de cette thèse personnellement. Il y a cet Indien aussi qu'on voit là, on sait pas du tout qui il est non plus. Il y en a qui arrivent, alors il y a eu quelques décryptages sur le net, il y a des personnes qui arrivent à voir Marston dans certains, dans certaines silhouettes, je les félicite, mais on a aucun indice sur la présence de John Marston. Et si je devais avoir une hypothèse ou une théorie concernant ça, bon, on voit Bill Williamson hein, plusieurs fois avec son chapeau, son chapeau très typique rabattu sur le côté droit, mais Marston là je vois pas où il pourrait être. Et je me demande sérieusement si Marston arriverait pas à la fin du jeu tout simplement pour essayer de créer un lien justement, mais sans qu'on puisse le jouer ou vraiment discuter avec lui quoi. Ça sent plutôt l'histoire de trahison pour le personnage principal Arthur Morgan qui à la fin mourrait comme une merde ou je sais pas quoi, et à la fin bah, John Marston qui arrive en nouvelle recrue ou un truc de ce style. Ouais, je le verrai comme ça, mais bon après
et sinon toi qui attendais une date, bah
bah voilà, bah j'ai donc une voilà. Je peux regarder dans les couilles du cheval pendant encore quelques mois. Bah spring 2018, ça fait printemps 2018, ouais, et ce qui dit printemps 2018 dit mars, avril, mai. Le premier est sorti le 18 mai. Donc oui, et début juin aussi.
Bah après ça leur permet d'avoir encore un temps de communication supplémentaire. Parce que là le trailer fait beaucoup parler, et après ils pourront balancer plus tard un autre trailer avec la date, et donc ça refera un gros coup de com à ce moment-là.
Voilà, puis après il y aura le trailer avec la partie online, ouais. Le deuxième trailer avec la partie multijoueur, le troisième trailer avec le fait qu'on va peut-être jouer des autres personnages.
Il enfin, y en a avoir du trailer avec le mode zombie.
Ah ouais, non mais il va y en avoir tellement, parce que ça me rappelle tellement 2010 où effectivement toutes les semaines c'était on était arrosé quoi de vidéos sur Red Dead.
T'as pas fini de t'impatienter en fait.
Ah non, moi j'ai pas fini, non. Mais j'imagine qu'ils vont nous le sortir au mois de mai. Ils aiment bien le mois de mai, je crois.
Un petit détail à la con, le 2 est devenu un 2 romain.
Oui. Alors pourquoi?
Juste pour
nous faire
hommage
à Romain, justement.
Peut-être.
Je me pose la question. Mais pourquoi ce serait devenu un 2 romain au lieu d'un 2 arabe? Tiens, c'est vrai qu'on s'est pas posé la question.
Je pense que ça sert à rien d'aller chercher des réponses dans des endroits où il n'y a pas forcément de questions.
Visuellement, c'est plus classe en fait. Je trouve que c'est plus raccord.
Non, mais il y a peut-être un message caché à l'intérieur, on le sait pas.
Bah ouais, genre. Ouais, on dirait deux silhouettes.
Bah, si tu regardes, comment tu dis, attends, Red Dead Redemption 2 bars, ça voudrait dire un truc, 2 bar, bar 2.
Ouais,
Baptou, c'est un truc, c'est un jeu de Baptou.
Non, ou alors,
est-ce qu'ils sont fragiles?
Non, là franchement, je vois pas du tout ce qu'on pourrait.
C'est un monde ouvert avec deux bars, deux saloons.
Seulement deux saloons,
ouais, c'est pas. Non, ou alors tu incarnes deux personnages.
Ah, peut-être, hein.
Le premier, c'est Marston, et l'autre.
Moi, Marston, je sens pas que.
Ils peuvent peut-être faire une sorte de twist un peu comme à la fin du premier Red Dead.
Oh,
je vais pas rentrer dans les détails.
Ils peuvent même complètement en bateau, et ça représente genre 25 minutes du jeu, et tout le reste du jeu, on jouerait Marston avant ou pas. Hein.
Bah, de mémoire, Rockstar aime bien dans ses trailers, aime bien être évasif et laisser les gens se torturer le cerveau, mais ils sont pas trop dans le même délire que Kojima de vouloir tromper volontairement.
Pistes, ouais.
Voilà, alors que Kojima, lui, il aime bien qu'on se fasse des idées, qu'en fait, ça soit pas du tout ça. Rockstar, c'est pas trop leur truc. Rockstar, ils te montrent juste des trucs sans te les préciser et sans trop rentrer dans les détails. Donc, c'est pour ça que je pense pas vraiment à une entourloupe.
Deux persos, ça me paraîtrait pas idiot. Moi, je dirais que le héros qu'on vient de voir, plus la blonde, qui a l'air de dire, alors je sais pas si c'est à lui qu'elle dit ça, mais t'es le seul mec à qui je fais confiance dans cette bande. Peut-être qu'il y aura une histoire d'amour, peut-être que ça va être un truc un peu, un peu tortureux, torturé pardon, justement pour essayer de renverser Dutch van der Linde. Vraiment beaucoup de questions qui se posent et pas beaucoup de réponses qui se donnent malheureusement.
En tout cas, au sujet des réponses, je vous avouerai que j'ai suivi ça un peu de loin la semaine dernière, mais apparemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une fuite d'une map qui était associée à Red Dead Redemption 2 l'année dernière. Et les différents détails qu'on peut voir dans ce trailer ont été épluchés par des fans hardcore de Red Dead. Et d'après eux, ça semble confirmer que la map qui avait fuité l'année dernière est bel et bien la map, au moins en partie, de Red Dead Redemption 2. Donc là encore, excusez-moi, je n'ai pas vraiment creusé le truc pour voir de quoi il est question. Mais il semble bien parti pour que ça soit cette map-là.
Elle a l'air cohérente, hein, la map, par rapport au fait qu'elle reprenne une partie de la map de Red Dead Redemption 1 et qu'elle s'étende un peu plus au sud et au nord pour justement montrer plus de bayous et plus de montagnes.
Dis-moi si je me trompe, mais il n'y avait pas des éléments de cette map en commun avec celle
avec
de
Mafia
3.
Oui, c'était des personnes
New
avec
Bordeaux ou je sais plus
quoi. Oui, ouais, absolument.
C'est ça, ouais. Ouais, donc il y a peut-être des.
La Louisiane, à mon avis, devrait être beaucoup plus présente que.
Oui, mais non seulement ça, mais ce sont les mêmes noms de villes. Donc ce sont les mêmes villes, ce seraient les mêmes villes fictives de mémoire. Hein.
New Bordeaux. Je sais pas si New Bordeaux a pas existé en tant que bled à l'époque, au 19e siècle. C'est une question que je me repose aussi.
En tout cas, ça fait partie des autres questions qui attendent une réponse actuellement.
Oh, il y en a tellement. Et vite, dépêchez-vous. J'en peux plus. Thomas, t'as pas beaucoup entendu sur ça.
C'est toi qui iras dans le bunker.
En même temps, moi, je n'ai pas fait le premier, en fait, donc j'ai plus découvert,
si tu veux.
Ah oui,
t'aimes pas le premier. Ah oui, le mec qui aime pas le premier,
voilà,
il est là.
Ça y est, on l'a retrouvé.
Ah, c'est lui.
On a retrouvé plus.
C'était lui.
Ça
y est, je me souviens maintenant.
Du coup, tu seras bien obligé d'avouer que quand j'ai vu le trailer au début...
T'as regardé les couilles du cheval et puis t'as fait putain, c'est trop bien fait.
Non, j'ai été assez soufflé par les environnements, justement, qu'on voit au début. Je le disais, tu disais que c'est ce qui t'avait le plus marqué. Moi aussi, c'est plus l'étendue, c'est plus les paysages qu'on nous balance comme ça en pleine tronche d'emblée. Qui m'ont fait dire ah ouais celui-là je vais peut-être pas passer à côté pour le coup.
Il devrait faire comme Assassin, genre un mode où t'as pas du tout de gangster qui essaye de te tirer dessus et tu peux juste te balader dans les environnements.
Ouais, mais ça serait pas très très Rockstar ça, en fait.
Non, c'est pas très Rockstar.
Et après, en tout cas, c'est beau
pour les explications historiques et tout, ça serait pas forcément
donc tu m'as parlé de bunker, Romain. C'était qu'est-ce que tu voulais dire?
Non, je disais, donc pour le coup c'est toi qui iras faire les sessions de jeu dans le bunker de Rockstar à Londres.
Mais je ne sais pas.
Non, on le reverra plus.
Parce qu'il faut
il ne reviendra pas.
Il faut savoir que.
Peut-être que je vais me préserver. Peut-être que je vais me préserver pour le test.
Il faut savoir, par exemple, que quand vous allez à des présentations de jeux Rockstar dans leur locaux
si tu le laisses à quelqu'un d'autre,
ils vous enferment.
Eh, oh, commence pas toi là-bas.
Ce sera Thomas qui va le tester.
Ils vous enferment dans des pièces très sombres. Moi, je me rappelle pour Max Payne 3, par exemple, ils nous avaient mis dans une pièce avec plein de postes de jeux. Mais ils nous ont enfermés. Genre, fallait pour sortir de la pièce. Donc pas pour y rentrer, pour sortir, fallait badger, etc. Enfin...
Genre t'avais des toilettes à proximité ou tant pis pour toi
Non, ils étaient à l'extérieur, mais fallait demander.
Non mais tu vois, tout de suite, je dis plusieurs heures enfermées.
Fallait demander à sortir pour pouvoir aller aux toilettes. Ils sont vraiment très très secrets et très très méticuleux là-dessus chez Rockstar. D'ailleurs, de l'extérieur, tu sais pas qu'ils sont là.
Et ça se ressent dans leur communication. Hein. C'est eux qui décident vraiment, c'est eux qui donnent le tempo quand ils choisissent de dévoiler quelque chose. On parlait de la carte qui a fuité tout à l'heure, mais c'est quand même assez rare qu'il y ait des vraies infos qui fuitent de chez Rockstar. C'est eux qui tiennent quand même le lead sur leur communication.
Oui, puis en général, les petites fuites, c'est souvent des doubleurs ou des trucs comme ça, ou des ex, mais c'est jamais toujours très bien.
Regarde récemment.
Sauf pour les noirs, évidemment, sur Switch, où là, ça s'est avéré totalement vrai.
Et il y a aussi récemment des artworks de Agent. Et très probablement aussi de Bully 2. Donc après on va voir si ça va mener à quelque chose, mais sachant qu'il y a Red Dead 2 qui sort, je pense qu'avant d'apprendre ce qui arrive ensuite, on va pouvoir attendre un moment.
Bah oui, comme à chaque fois avec Rockstar, il privilégie la qualité à la quantité, n'est-ce pas? Oh, vous avez l'air super convaincus tous, ça me fait plaisir.
Eh ben écoute, je suis complètement convaincu.
Bon, moi j'attendais Table Tennis 2, en fait.
Oui, on en est tous là, moi. Et bon, on va passer au thème numéro 2, messieurs. Quelque chose qui va vous parler un peu plus, Romain et Julo. C'est Shenmue 3. On va rester dans les animations faciales.
Je sens
faciales.
Qu'on va redire un peu ce qu'on avait dit dans notre vidéo sur Shenmue 3 et les animations faciales.
Bah voilà, pour les personnes qui n'auront pas vu cette émission. Voilà.
Oui,
à
l'époque où vous l'avez faite, il n'y avait pas encore eu justement cette vidéo d'animation.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'était la suite du débat.
C'était tout le problème.
Alors,
justement.
On va revenir sur la timeline, on va dire, du développement de Shenmue. Cet été, Shenmue a eu droit à un nouveau trailer qui était un peu gênant dans le sens où il n'y avait pas d'animation faciale du tout dans le trailer. Quelque chose sur laquelle sur lequel un truc sur lequel Yu Suzuki est revenu, je crois, avec toi.
Ah ouais, parce que tout le monde lui a posé cette question, évidemment. Ouais. Parce que c'est le trailer dont tu parles pendant l'été, c'était le trailer Gamescom, parce qu'on n'a pas entendu parler de Shenmue 3 depuis maintenant des mois et des mois, et il était question qu'il revienne sur le devant de la scène à l'occasion de la Gamescom. Donc on savait, nous, qu'on allait interviewer Yu Suzuki, on savait qu'il serait là-bas, etc. Donc le moment où il dévoile le trailer, c'est évidemment un moment où tout le monde est à cran, alors les fans surtout, évidemment, mais les observateurs aussi, plus ou moins distants,
et
comme
les
haters,
hein, qui étaient bien contents aussi, tu sais, les piranhas, les piranhas qui étaient prêts à sauter sur la plaie.
Et les... Non, j'allais faire une vanne, mais j'aurais pas trop voulu qu'on l'entende, donc si vous pouvez continuer à parler.
D'accord, ouais, vas-y.
Non, j'allais dire, et les gods aussi, parce qu'on est à côté d'un sex shop, mais c'est une autre histoire.
D'accord, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Très bien, merci pour
cette
C'est pour ça que je voulais pas qu'on l'entende trop. Voilà.
Donc, du coup, quand le trailer est arrivé, effectivement, il y a eu une espèce de déception générale, voire une vague de moquerie qui s'est abattue sur Shenmue.
On se demande bien pourquoi.
Voilà. Bref. Pendant la Gamescom, évidemment, tout le monde lui pose cette question et il explique avec plus ou moins de détails. Nous, il nous a donné pas mal de détails, notamment avec ce geste-là, des mâchoires qui rentrent dans le visage, etc. Bref, ce qu'il nous a dit, c'est que oui, il y a bien des animations faciales qui sont en cours, mais lors de la dernière implémentation de nouvelles versions qu'ils ont faites, avant la Gamescom et avant de faire le trailer, ils se sont rendus compte que ça faisait complètement bugger les animations faciales, donc ils ont préféré les retirer. Mais ne vous inquiétez pas, on travaille évidemment sur des animations faciales, blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Là, on est 2 mois après la Gamescom, même pas,
un mois.
Un mois après la Gamescom.
Et la patatras.
Et là, update du Kickstarter, et c'est ça que vous avez vu et que vous découvrez à l'écran.
Vous voulez des animations, les voilà.
Avec déjà le mec en pyjama.
Déjà ce cadrage.
Non, mais déjà lui, il était déjà
fond,
en pyjama.
Enfin, tout est...
C'est le CM, en fait. Et là, il nous montre...
Moi, je pense pas qu'il est en pyjama, je pense qu'il est dans un hosto, en fait. Hein.
Ouais,
je pense
ça.
Qu'il est à poil en dessous de son truc, là.
Ils l'ont interné, je pense.
Et que, en fait, c'est juste une
robe de chambre.
Parce que
les images défilent, Plumeau, j'en profite. Donc voilà ce qu'on a vu.
Voilà l'étendue des dégâts.
Donc un personnage...
Une mamie.
Mamie, pas très jolie, qui dans sa position, tu sais, polygone naturelle, okay, c'est-à-dire les bras tendus,
elle
les
fait
jambes jointes, voilà l'étoile. On nous a montré qu'effectivement l'équipe travaillait bien sur des animations faciales qui existaient, etc. Sauf que les animations faciales en question, elles font un peu pitié.
Alors j'ai une question déjà d'emblée. On a vu plein d'interviews de Yu Suzuki à la Gamescom. Où ils expliquaient que Yu Suzuki répondait à la question en sortant son ordinateur et en montrant des trucs sur son écran.
Mais pas à toutes les questions.
Voilà, pas à toutes les questions, mais apparemment il a montré à certaines personnes des animations faciales. Je me souviens plus.
Alors pas moi.
Pourtant
je lui en ai parlé.
Parce que j'aurais bien aimé savoir si c'était ces animations-là qu'il avait montrées aux gens sur place. Parce qu'au fond, cette situation-là dans laquelle on se retrouve maintenant, ça part d'une bonne intention.
Bah oui.
Parce qu'ils ont vu que les gens avaient flippé avec les animations faciales, donc ils se sont dit
les
rassurer.
Ils croient les rassurer en montrant des animations faciales, genre, et on vous a pas menti, ça existe.
Ouais, il y en a.
Et c'est presque pire que tout, en fait.
Et en fait,
ça aide pas.
À nouveau, peut-être, parce qu'on avait jugé ça avec Romain, au final, quand on a eu notre grande discussion, on a fait une vidéo là-dessus, comme une erreur de communication avant tout. Est-ce que là, c'est pas une deuxième erreur de communication?
C'en est une autre, mais de toute façon, la communication de Shenmue 3 depuis le début, enfin, du Kickstarter, la gestion du Kickstarter est assez mauvaise. Ça, et tout le monde est d'accord, enfin, chez les fans de Shenmue pour le dire. Après, là, il faut se dire que ce sont pas des animations en situation. C'est un test, comme disait Julo, elle a les bras en T. C'est juste pour montrer l'étendue des mouvements de visage que...
La palette de ce qui sera possible de faire.
Tu sais, c'est comme dans un peu comme l'écran titre de Mario 64. Où tu pouvais jouer avec les yeux de Mario, son nez, etc.
Oui, en gros, le développeur active des curseurs.
Là, il y va un peu franco.
On
c'est
voit
pas
les scripts qui se déclenchent et tout. Voilà, elle n'est pas en train de raconter quelque chose de cohérent ou d'avoir une attitude qui est raccord avec la situation.
Il y a quand même des sous-titres en dessous, donc c'est vraiment, visiblement, ça a l'air d'être un dialogue précis du jeu. Mais...
Oui, parce que ce qu'on voit à gauche, c'est les phases de, je pense, du mouvement de la bouche.
J'ose espérer.
Tu vois qu'il défile en fonction des sonorités, je pense.
J'ose espérer que les animations faciales du jeu final.
Non, mais attendez, là, très clairement, c'est marrant parce que toi, Romain, tu connais bien Shenmue comme moi. On est en train de voir un personnage qui ressemble beaucoup au personnage qu'on voyait dans Shenmue 1 et 2. Technologiquement, techniquement, visuellement, ça ressemble beaucoup à la modélisation et à la qualité de modélisation, qui était d'ailleurs très en avance sur son temps à l'époque. Sauf que là, on est en 2017 et que c'est un peu pareil, quoi, en fait. Finalement, on est dans un niveau de détail et de modélisation qui est à peu près identique à celui de 2001.
En un peu moins carré, ça s'est arrondi un petit peu.
Légèrement. Mais on sent que, tu vois, les traits du visage sont imprimés en tant que texture sur les visages, ouais. Pas forcément en relief, etc. Ça, c'est très Shenmue 1 et 2, ça. Mmh. Ouais. Donc, écoute, pour redire ce qu'on avait dit l'autre fois... Et c'est effectivement très certainement une erreur de communication, ne le nions pas. En revanche, il y a toujours un vrai problème pour moi, c'est que les gens s'attendent à voir un jeu AAA en développement depuis 2 ans, alors qu'en fait, ils sont sur un projet Kickstarter qui a à peine récolté moins de 10 millions d'euros, si je dis pas de bêtises.
6 millions 6 sur Kickstarter, voilà. Et j'ai revérifié tout à l'heure, via PayPal, ils ont récupéré 200 000 de plus.
Voilà, bon bref. C'est une petite production.
Après,
d'ailleurs,
à
chaque fois,
arriver, mais
à chaque fois que j'ai vu Yu Suzuki, je lui ai posé la question. Ça, j'ai pas manqué l'occasion aussi à la Gamescom. Je lui ai posé la question des équipes. Alors, est-ce que vous êtes staffé désormais et combien êtes-vous à travailler sur Shenmue 3, quoi, tout simplement. Et ben, ils ne répondent toujours pas à cette question. Et je pense qu'ils n'y répondent pas parce qu'ils sont pas encore très nombreux. Et il m'a répondu en me disant, en évitant un peu le sujet, en me disant oui, mais maintenant il y a Core Media qui est avec nous, donc on se sent déjà plus staffé. Et à partir de maintenant, tu sentais que c'était un vrai départ, en fait, ce deal pour l'édition du jeu. Donc voilà, moi je pense que il est en retard déjà. Hein, il était annoncé pour fin 2017. Maintenant, il est pour courant 2018, pour deuxième semestre 2018.
Deuxième
moitié
de l'année.
Je pense même qu'on peut tabler sur 2019. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on est vraiment aux prémices. Du développement, et qu'une fois qu'ils auront fait tout un tas de travaux sur le moteur, sur la façon de créer leur séquence, et quand ils auront trouvé un rythme de travail, je pense que du coup on aura un Shenmue 4, parce qu'on sait d'ores et déjà que l'histoire ne se terminera pas dans Shenmue 3, qui sortira beaucoup plus vite derrière, tu vois.
Le truc, c'est que tu regardes chez Sega ce qui se fait. Et tu check les vidéos de Yakuza Kiwami 2.
Ah oui, ça fait mal.
À côté, et tu dis merde, c'est dommage quand même que Shenmue ait servi de bouc émissaire pour les différents échecs de Sega au début des années 2000, fin des années 90. Parce que si Yu Suzuki et Shenmue avaient été un peu plus en odeur de sainteté chez Sega, bah ils auraient peut-être pu filer Shenmue 3 à Nagoshi et son équipe, avec évidemment Suzuki.
Pas forcément le filant à Nagoshi, en utilisant le moteur.
Non, parce que oui, voilà.
Les forces actives de Yakuza, quoi.
Parce que le Ryuga Gotoku Studio, c'est Nagoshi qui le dirige. Donc forcément, il a son. Et en plus, Nagoshi qui avait travaillé sur Shenmue 1 et 2 aussi à l'époque. De toute façon. Même s'il y a des différences, il y a clairement des points communs aussi. Et je pense que l'expérience Shenmue a vachement servi pour créer Yakuza ensuite. Mais quand tu vois les visages de Yakuza, même dans le premier Kiwami qui utilise le moteur PS3, on est quand même à des années-lumière de ça en termes de qualité.
Après, on va pas non plus trop cracher sur le truc. Il y a des jeux qui ont une technologie peut-être beaucoup moins agréable à l'œil que ça. Et déjà, ça, c'est très moyen.
Moi, j'ai toujours
je pense à un jeu comme Life is Strange, par exemple, qui, le tout premier, n'a pas de synchronisation labiale. À certains modèles qui sont, je pense aux proviseurs notamment, qui sont limite hideux. Et pourtant, ça n'empêche pas un jeu comme celui-ci de s'en sortir. Donc voilà, moi, personnellement... Là, ça, je trouve ça hideux. Je vous le dis, c'est non, moche.
Ce personnage,
regarde, mais... c'est écrit. Wow, le visage de ce personnage bouge.
Mais, à la encore une fois, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. J'aime bien cette expression
quand
on
le paye, d'ailleurs.
De Thierry Roland. D'ailleurs, quand on le paye, oui, c'est vrai. On verra si on peut le payer. Mais on verra si le jeu.
On l'a déjà payé, le musicien.
On verra si le jeu est capable de faire oublier justement ces moments d'égarement de coulisses où on voit les coutures.
Mais cela dit, c'est un personnage moche. C'est un personnage pas très beau qui est modélisé.
Oui, mais même au-delà de ça, voilà. Il y a quelque chose qui est quand même un tout petit peu inquiétant, c'est la manière en fait dont il t'amène ce truc là le type en pyjama dont on se moquait un petit peu avant. Non, mais il te l'amène sur le ton du hey, regardez où on en est, ça y est, on a les animations.
C'est sûr que c'est pas un trailer Michael Bay, quoi.
Non mais et en plus à la fin, le mec te dit quand même ah, on espère vraiment que ça vous a plu, allez, à la prochaine, alors que tu te dis objectivement, tu peux pas présenter ça en te disant allez les mecs, vous allez tous être rassurés sur l'avancement du moteur et tout, tu vois.
C'est là qu'il faut que les gens reposent les pieds sur terre et se disent voilà, on est en train de suivre les étapes d'un projet Kickstarter.
Mais quelque chose de presque naïf, tu vois, dans l'attitude du coup.
Ils sont totalement clouless.
C'est naïf, hein, c'est sûr.
Ils sont clouless, comme diraient les Américains. Ils ont aucune idée du fait que, ça,
du monde
que leur communication n'est pas bonne. Parce qu'on regarde et le jeu d'Igarashi, la Bloodstained,
ouais.
C'était un Kickstarter aussi, qui a eu moins de budget. Mais la com, elle était genre tellement au-dessus de ça.
Bah, plus maîtrisé, tout simplement.
Et,
en fait.
Et on sait bien, rappelez-vous, quand la PS2 avait été annoncée, quand la PS3 a été annoncée, etc., les visages de personnes âgées sont toujours utilisés comme...
des démos techniques.
Comme démos techniques, c'est parce vrai, qu'avec toutes les rides, les plis, etc., c'est un bon moyen de montrer. Et là, il nous montre une femme assez âgée aussi, sauf que ça fait pas du tout le même
effet. Il n'y a pas de wow effect, là, pour le coup.
Je sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu l'affaire Pokémon Go à Chicago, là, où ils ont fait le festival, et ça a été un fiasco technique à tous les niveaux, et qu'il y a des mecs qui ont fait une vidéo compilation des différents moments gênants de trucs. Je pense qu'on pourra récupérer beaucoup de vidéos des mises à jour Kickstarter de Shenmue 3 pour faire une compile à la fin, parce que c'est un ensemble de ratages magistraux. Je me rappelle d'un en particulier où Yu Suzuki dit à la fin de son passage: non, elle est pas bonne celle-là, on va la refaire, et ils l'ont pas coupé.
Ah oui, d'accord, carrément.
Et il répète deux fois la même chose avec au milieu: non ça c'est pas, faudra pas laisser ça, etc. Et genre ils sont nuls là, le cadrage, il y a pas de micro, le mec il a genre 20 cm de blanc au-dessus de la tête, etc. La communication de ce Kickstarter est catastrophique. Alors et je dis ça en tant que fan, genre ultime de Shenmue. Les haters, c'est du petit
c'est
lait.
Du pain béni, ouais. Ouais, mais ça rejoint ce que dit Julo sur le staff du jeu, en fait. Ouais. Si t'as pas quelqu'un qui chapeaute véritablement la communication et qui a l'habitude de s'occuper de ce genre de truc, ça peut donner des catastrophes
comme ça. C'est là où Core Media a un rôle à jouer. Ouais.
Là, à la place de Core Media, je leur dis: vous arrêtez.
On prend les choses en main, voilà, oui, on va temporiser un petit peu.
Vous publiez plus rien sans nous. C'est nous qui chapeautons ça et on reprend le contrôle.
On va produire un trailer qui va défoncer la gueule. Voilà.
Non, faut arrêter ça. Le mec en pyjama avec 30 cm au-dessus de sa tête, pas de micro branché, rien.
C'est presque étonnant que ce soit pas déjà devenu un mème, tu vois. Quand je vois l'image là comme ça, je dis qu'il y a du potentiel.
Est-ce qu'il y a quand même une espèce de bienveillance autour de Shenmue malgré tout?
C'est un peu le problème, et on en parlait la dernière fois dans notre vidéo, c'est qu'il y a certains fans aveuglés, mais véritablement aveuglés, qui crient au génie pour tout. Et je prends toujours l'exemple du premier logo de Shenmue 3 qui avait été dévoilé, qui était absolument hideux. Et il y a des gens... en fait, ils ont tellement peur que Shenmue se plante et que la licence continue pas, etc., qu'ils défendent tout à tort et à travers. Genre, ah ouais, non, mais le nouveau logo, il est même plus joli que l'ancien. Arrêtez, les gars. Ça rend service à personne quand vous dites des trucs comme ça. Faut, quand il y a un problème, faut aider le jeu à avancer.
Au final, on a eu un troisième logo. Et
oui, qui est pas plus...
Il est mieux que le premier, quand même. Ouais.
Un petit peu, mais oui. Donc là, maintenant qu'il y a Core Media, il faut
reprendre en main
les choses en main.
C'est clair et net.
Et c'est vrai que Yu Suzuki, pendant la Gamescom, dans plein d'interviews, il a dit un des problèmes, c'est qu'on a un staff qui est bien moins important que celui de l'époque de Sega, et donc faut garder ces éléments là.
Ça te fait rire, mais je me suis habitué au nouveau logo quand même.
Bah, il passe mieux que le premier.
Il passe beaucoup mieux. Au moins, il est calligraphié.
Il vaut pas du tout le logo original pour moi. Ouais. Et pourtant, ce logo qu'ils nous avaient sorti juste avant la Gamescom, ils avaient dit: regardez, on a un nouveau logo. Et là, ils te ressortent le logo Shenmue original avec le 3 à côté. Et là, tout le monde est là: super, c'est ce qu'on voulait. Et genre, deux semaines après, eh ben non, on vous en a refait un autre qui est moins bien.
Mais c'est là qu'on sent que c'est là qu'on voit que c'est vraiment une histoire de fan aussi. Parce que pour débattre du logo, c'est quand même aller très 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 loin.
Mais c'est parce
dans
l'interprétation.
Tu te rends
compte que pendant plus de 15 ans, on n'a rien eu du tout.
Ouais, le placement du TM à côté de Shenmue, il est bien ou pas? C'est ça qu'il faut que je sache.
On a rien eu du tout. Donc pour nous, un logo, c'est important. Quand tu penses qu'il y a des fans qui se le sont fait tatouer, donc ça prouve quand même que le truc a son importance. Et on veut.
J'en connais un.
Et oui, le
vous,
mec
l'avez, vous, l'avez vu, ouais. Vous l'avez vu dans le vlog de la Gamescom du 3e ou 4e jour. Effectivement, j'ai croisé Pete, qui est le plus gros fan de Shenmue que je connaisse. Et il a Shenmue tatoué, donc avec les caractères japonais.
Les kanji,
le
ouais. Enfin, les,
non,
les
pas les
ragana,
kanji, les katakana. Ouais.
Et oui, on veut tellement que les choses aillent bien et que la licence reprenne, etc., que bah oui, on va débattre pendant des heures de la police d'écriture du
Il y a quand
logo.
Même très très peu de jeux pour lesquels on va aussi loin, justement, avec aussi peu de contenu, enfin pour lesquels on prête autant de... on placarde autant d'inspiration, de désir, en fait. Parce qu'il y a une crainte, enfin, ce qu'on ressent à travers tout ça, c'est la crainte de la déception,
ouais.
Clairement.
Personnellement, j'ai pas une grande crainte de la déception. Bah, comme je le disais...
Mais toi, tu es humble, Julo.
Non, avant même que Shenmue 3 soit annoncé et que c'était encore une espèce de rêve impossible et tout, moi, je disais souvent, si Yu Suzuki m'écrit la fin de Shenmue sur un post-it, ça me va. Donc là, il va y avoir un vrai jeu.
Mais donc, tu auras ton histoire.
Et je veux dire, même s'il est maladroit ou pas très bien fait ou même pas bon, il va faire avancer cette histoire dont je voulais voir à la fin, quoi.
Moi, je suis totalement dans le même état d'esprit que toi.
Donc c'est un peu le côté
ça.
Fan. Voilà.
Mais là où les gens ont peur, en fait, c'est vis-à-vis des non-fans. Parce qu'en fait, au fond, on a envie que les autres personnes jouent, les non-fans, se mettent à jouer à Shenmue et trouvent ça génial bah, autant que nous, on trouve ça génial.
Tu peux pas le vendre qu'aux gens qui ont
bah voilà,
quel
si
jeu.
Si on veut
fait,
Shenmue 4,
obligé...
t'y crois à ça, toi, ou pas?
De quoi?
Bah que d'autres gens vont jouer à Shenmue.
Si. Non mais vous en avez pas envie. C'est comme quand on aime un groupe de musique
ouais,
ou machin,
rester...
on veut que ça,
non,
on
non.
veut pas que ça devienne trop commercial.
Ouais, on veut que ça reste ghetto. Un peu.
Pas, voilà. pas du tout, parce que pour moi c'est la condition sine qua non à la poursuite de la licence. Comme je sais que Shenmue, si je savais, si j'étais garanti que Shenmue 3 termine la série, qu'on soit 15 à y jouer, rien à foutre.
Mmh, c'est vrai.
On a eu la fin de notre truc. C'est tant mieux, nous on
mais
est contents.
Mais tu voudrais
la
que ce soit pérenne en fait et que ça aille un petit peu plus loin,
bah,
donc
si,
que
si
ça rencontre un certain succès en fait.
Si je veux que Ryo finisse par le choper par là, Landy, et lui défonce la gueule, ou alors lui pardonne, parce que ça c'est.
Connaissant Suzuki,
c'est pas impossible.
Pas ça.
Si j'ai envie qu'il y ait ça. Et
tu
faut...
rigoles, mais moi je pencherais plutôt vers cette solution là. Je ne pense qu'il ne le tuera pas.
Ou alors il va se battre contre lui.
Moi je pense qu'il va l'épouser. Parce que ça se finira
non,
en 2013 à peu près.
Personnage entre Shenmue 1 et Shenmue 2.
C'est un parcours initiatique.
Exactement.
Il va le battre, mais il le tuera pas.
Exactement.
C'est Landy qui va le tuer quand il
et
aura dos tourné.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ce sera une fin dégueulasse.
Non, mais on veut que ça continue. Et pour que ça continue, eh ben il faut que ça marche bien. Parce que je sais pas, après l'expérience Shenmue 3, je sais pas si le coup du Kickstarter ça passera.
Remarque maintenant qu'il y a Core Media, bon ça dépendra des ventes.
Et ça mais va bah, dépendre alors, aussi des ventes de Shenmue 1 et 2.
Pour répondre moi-même à la question que je t'ai posée, puisque personne ne me la pose, allô, je suis là, vous en foutez, hein, c'est
oui.
ça, vous avez rien à foutre que je sois là. Ou alors vous voulez vraiment que je sois pas là en fait.
Oui aussi.
Ben, je m'en vais, ciao. Pour répondre à la question que je posais, donc moi j'y crois pas du tout. Je ne pense pas que Shenmue va engager. Enfin, il va
faire
engager quelques-uns, hein, évidemment. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir une espèce d'engagement massif de tas de joueurs
non.
qui n'ont pas joué à Shenmue.
Tout dépend si Sega assure.
C'est trop basé
avec
sur
les
la
remasters,
nostalgie.
Hein.
Le...
Hein si Sega assure bien avec les remasters, ça peut être le cas.
Mais c'est pareil, qui va acheter les remasters de Shenmue?
Des curieux.
Tu sais, le bouche à oreille.
Combien de curieux
Tiens,
pas
souvenez-vous, il y a,
bah
17... Souvenez-vous, y a 17 ans, il y a un jeu culte qui est sorti. C'est l'occasion de le réessayer. Moi, je fais partie des gens, par exemple, qui n'y ont pas joué en entier du tout. Peut-être que d'autres curieux sont dans le même cas.
Il y en a.
On n'avait pas la Dreamcast à l'époque.
Est-ce que toi, tu vas jouer à Shenmue?
Oui.
On sait que ça va sortir, Shenmue.
Oui,
HDR,
oui, oui, j'y jouerai, oui, c'est sûr.
C'est une évidence. Tu es sûr d'y jouer?
Certain.
D'accord.
Certain.
T'as envie?
Ah bah oui, j'ai plus qu'envie et je l'ai loupé à l'époque.
T'as l'impression d'avoir loupé un truc.
Moi j'ai vu un petit chat à l'époque et c'est tout, ça s'est arrêté là, donc j'ai envie de voir plus que ça.
Je pense qu'il y a pas mal de curieux qui vont essayer. Et dans l'eau, je suis
des
désolé,
mecs qui vont arrêter en plein milieu.
Non, il y en a beaucoup qui vont être déçus parce que à l'époque de Shenmue, il y a eu deux types de réception. Il y a eu les gens comme Julo et moi qui avons adoré, qui avons eu l'impression de voyager au Japon et d'être transportés dans le Japon des années, le Japon et l'Asie des années 80.
Dans une histoire géniale
80.
Qui ressemblait au film de
voilà.
kung-fu chinois.
Mais il y a aussi des gens qui ont trouvé que c'était un simulateur de chariot élévateur dans lequel on se faisait chier et dans lequel il se passait rien. Moi,
mais
j'ai pas du tout eu cette sensation.
Pardon, mais si les gens qui ont pensé ça à l'époque, j'en connais.
Il y en a eu. Hein.
sont quand même passés à côté de plusieurs choses. Assez énormissime.
C'est réducteur.
C'est complètement réducteur parce que c'est, on va dire, peut-être l'un des premiers vrais mondes ouverts. L'un des premiers jeux où les PNJ avaient un emploi du temps. L'un des premiers jeux où il y avait un cycle jour-nuit dans une véritable aventure avec un monde ouvert. Etc. C'est un jeu des premières fois, Shenmue. C'est un jeu tellement en avance sur son temps, y compris en termes graphiques, qu'à l'époque on disait que c'était le plus beau jeu du monde et c'était le plus beau jeu du monde. Il est resté, up to date, on va dire. Quand on l'a ressorti dans un live il n'y a pas si longtemps, c'est encore un beau jeu. Il y a beaucoup de jeux en 3D de cette époque-là et même plus récents que lui qui ont accusé le coup des années alors que lui, pas du tout. Donc je pense que les gens qui le réduisaient à ça, quand même, étaient bien dans le faux.
Et en plus, c'était rigolo de faire des courses le matin avant d'aller bosser. Moi, je suis désolé, j'aimais bien.
Non, mais après, il y avait un côté ridicule.
Concourir avec mes collègues. Quoi.
Et puis aussi avec les QTE aussi, quand même, qui ont été assez moqués, etc. Il y avait des raisons de.
Oui, mais c'est tellement pas
de
que
pas
ça.
Aimer Shenmue aussi. Si
ça va tellement plus loin que ça. Enfin, il y a tellement de choses dans
le jeu.
Il y a
des raisons valables.
Moi, j'ai arrêté aux deux, mais le premier, j'ai passé un excellent moment aussi. Vraiment.
C'est étrange que t'aies pas eu envie de faire le 2 en ayant apprécié le premier quand même. Ça, c'est un truc que je comprends pas.
Bah, mais, j'ai déjà posé la question, mais j'ai fini par me lasser. J'ai fini par me lasser. Non, c'est que vraiment, à un moment donné, là, je vais caricaturer un peu aussi, mais ça avait été ma réponse. C'est qu'à un moment donné, apporter des bouquins dans un monastère, j'en ai eu ma claque et je me suis dit, là, par contre, je me fais chier.
Mais le pire, c'est que ça dure pas très longtemps.
Je sais,
non,
la, la séquence des bouquins.
C'est 3 matinées, je crois, un truc comme ça.
Comme quoi, volontairement relou, en fait. C'est ça qui est pas.
On peut avoir un profil entre les deux, tu vois. On peut avoir aimé le premier. Moi, je sais, et je suis pas le seul, j'ai des potes qui sont dans le même cas, qui n'ont pas fini le deuxième épisode.
Et alors pourtant, ils ont fait un travail dans le 2 sur le timing. Par exemple, il y a, quand tu avais des heures de rendez-vous éloignées,
tu pouvais faire passer
dans
le
premier, fallait tuer le temps dans le jeu. Là, tu pouvais décider de passer, d'accélérer. Donc ils avaient augmenté le nombre de rendez-vous,
il fallait
c'est vrai, ça m'est arrivé tellement de fois.
Enfin bref, il y avait des choses, des reproches qui avaient été faits au premier, qui avaient été corrigés ouais. dans le 2 justement pour accélérer le rythme et augmenter l'action, etc. Enfin bref, comme quoi il y a tous les cas de figure. Mais pour vu que le Kickstarter de Shenmue 3 a battu des records déjà de vitesse et de somme d'argent engrangé,
ça a provoqué
de la curiosité. Moi, j'ai vu des commentaires de gens qui disaient j'ai backé Shenmue 3 sans avoir joué aux deux premiers, exact. Juste par rapport à l'euphorie qu'il y avait eu autour du
c'est
truc.
Bien, ça me rassure de voir que vous êtes plus optimiste que moi. Mais bon.
Mais non, mais
sur le fait que ça va driver.
Mais je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup. Par contre, je pense que des compiles Shenmue 1 et 2 HD, ça, ils peuvent en vendre justement sur la curiosité. Alors les nostalgiques, les fans, etc. Mmh. Nous, on va l'acheter x2. mais il y a aussi
avec ça, ils vont te vendre la BO aussi, qui sera forcément remasterisée par un orchestre symphonique. Enfin, ils peuvent faire des tas de choses. Hein,
je sais pas s'ils font. Non, je sais pas s'ils font du merchandising comme ça.
Ils pourraient.
Ça coûte cher en plus de tout orchestrer. Hein.
Ouais, mais ils pourraient.
Mais moi, je pense qu'il y a pas besoin en plus. Elle est déjà tellement belle.
Le jeu a coûté assez cher comme ça. Hein.
Mais et juste pour terminer la séquence Shenmue, parce que moi, je sais que je pourrais en parler pendant des heures, mais on va finir justement sur Shenmue 1 et 2 HD, parce qu'il y a eu une nouvelle rumeur il y a quelques jours, au moment où juste après le TGS ou je sais plus quoi. Cette rumeur me permet enfin de parler des choses. Qu'on savait depuis plusieurs mois. C'est Liam Robertson qui est un insider réputé qui a déjà eu moult informations en avance.
C'est lui qui a fait sortir les Lapins Crétins et Mario.
Oui, voilà. En l'occurrence.
Bon, c'était pas quelqu'un d'autre qui avait réclamé la parenté de Lapin Crétin
non,
Mario.
Il en faisait partie. Lui faisait partie de ceux qu'on a parlé.
D'accord. D'ailleurs, à travers son site comics.
Non, ça c'est Laura Kettdale.
Oui, parce que j'allais dire, c'est Laura Kettdale qui réclamait la paternité. Ouais, ouais. Hein.
Non, mais Liam Robertson, ce qui était pas mal, c'est qu'il avait mis en avatar sur son compte Twitter, essayait toujours, l'artwork de Mario de la jaquette des Lapins Crétins sur lesquels il avait superposé des lunettes de soleil. Ce qui fait que pendant des semaines, les gens avaient une image du jeu sans savoir que c'était ça. Donc, le mec est très bien connecté et il a beaucoup d'infos et donc il a entendu la même chose que moi. Lui il s'est renseigné et il s'avère que Shenmue 1 et 2 HD devait effectivement être annoncé
à
l'E3, que ça a été annulé dernière minute. Pour tout vous dire, on avait des rendez-vous pour voir Shenmue 1 et 2 HD et ça a été vraiment annulé genre 2 semaines avant le 3 pour mettre Sonic Force à la place, Sonic Forces. Et on n'a jamais eu d'explication, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais lui il a creusé encore plus et donc parce qu'on a discuté en off lui et moi et il m'a donné un peu plus de précision et effectivement plusieurs personnes chez Sega, personnes différentes, lui ont confirmé que c'était bel et bien en développement. Et aux dernières nouvelles, ça serait toujours prévu pour la fin d'année. Il ne sait pas si c'est des maths ou du physique. Là, il n'avait pas réussi à avoir suffisamment d'informations concordantes à ce niveau-là pour en parler dans sa news. Mais ça serait bel et bien imminent sur PS4, Xbox One et PC. Donc, ça va venir. Là, on attend juste que Sega se décide enfin, parce que ce truc là il est dans les cartons depuis des années, hein. C'est même pas une façon de parler, c'est vraiment depuis des années.
Je vais te dire, moi la première fois, c'est pas un concours de qui l'a entendu parler en premier, etc. Mais je me rappelle que en avoir entendu parler, si je sais plus si c'était en 2009 ou 2010, par quelqu'un qui avait eu une confirmation chez quelqu'un chez Sega, qui avait dit non mais le jeu est fini et il devait faire partie, vous vous rappelez, sur Xbox 360 et PS3, il y a eu des compiles de jeux Dreamcast,
oui, tout à fait.
Et il y a eu Jet Set Radio, Chuchu Rocket, je crois, Special N5, etc.
Crazy
et
Taxi.
Il devait
non,
y avoir
non,
dans
Jet
la prochaine.
Il était sorti à part, mais la compile c'était Bass Fishing, Sonic Adventure, Space Channel 5
et Crazy Taxi.
Il y a eu deux volumes, je crois. Volume 1 et 2.
Après, les jeux ont été vendus séparément.
Il s'appelait Volume 1.
Oui, il s'appelait volume 1.
Voilà, donc il n'y a jamais eu le volume 2. Non. Bon, voilà. Et bah, et en l'occurrence, il devait y avoir. Je pensais que c'était, qu'il y avait eu le 2 et que c'était prévu pour le 3. Et donc, Shenmue était fini, quoi. Enfin, voilà, il aurait dû sortir sur Xbox 360 et PS3.
Après, là, ils ont dû certainement réadapter. Bah, là, un peu pour pouvoir mettre la PS4.
Il y a un truc énorme avec Shenmue. Est-ce qu'il ne faut pas, quand même. À mon avis, c'est ça qui s'est
passé. Et surtout, ces gars qui essayent quand même de changer d'image. On l'a bien vu avec leur nouveau slogan, leur nouvelle façon de faire, etc.
Et d'ailleurs, si ça peut ajouter un peu d'eau au moulin. Je trouve qu'on a retrouvé ces gars, quoi. C'est un peu.
On en parlait tout à l'heure.
On en parlait tout à l'heure avant ce podcast, pas du tout dans la thématique Shenmue, mais au Tokyo Game Show, par exemple, j'ai retrouvé un Sega. J'ai retrouvé le Sega d'avant, en fait. Pas le Sega qu'on a vu, tu vois, être sur à l'article de la mort, changer de business, de type de jeu, de aller beaucoup sur le PC. Ça lui a rendu service, hein, d'aller sur le PC.
Ça
lui rend très bien.
Ça lui rend flou.
Et ça lui rend toujours service et il le fait très bien. Mais on a retrouvé l'autre Sega. Celui d'avant,
le Sega japonais,
sortir des jeux, le vrai Sega japonais, etc. Et donc, il y a un truc dans l'air autour de Sega. Il y a eu Sega Forever aussi, qui est quand même une initiative assez réussie sur les mobiles. Bref, je trouve que toutes les étoiles commencent à s'aligner là.
Ben, alors, la vraie question, enfin, la dernière question qui reste au sujet de Shenmue 1 et 2 HD, c'est quand ? Paris Games Week ? PlayStation Experience ? À un autre moment ?
Moi, je dirais bien PlayStation Experience, parce que la fin d'année de Sega est quand même assez costaud, que ce soit sur PC ou sur console, ils ont quand même beaucoup de trucs.
Mais ils ont une grosse année, de toute façon.
Et Sonic Forces qui arrive en novembre, je suis pas sûr qu'ils aient envie d'avoir plusieurs trucs en même temps dans la même période.
Ils savent que Shenmue 3, ils ont quand même plus ou moins envie de se synchroniser avec Shenmue 3.
Ils veulent pas trop l'éloigner de.
Je pense que ils ont dû voir justement le report de Shenmue 3 à la fin de l'année 2018, donc ils se sont dit bon.
Ah, moi, je pense que c'est totalement lié. L'annulation à l'E3 de la dernière minute, pour moi, c'est lié au report de Shenmue 3. Ils ont dû le savoir juste avant. Avant l'annonce officielle, parce que la licence Shenmue continue d'appartenir à Sega, donc je pense que les décisions qui sont prises vis-à-vis de Shenmue 3 doivent être transmises à Sega
et validées par Sega.
Et je pense qu'ils ont dû leur dire voilà, on va le retarder, ok. Et donc eux, ils ont changé leur plan en dernière minute vis-à-vis de Shenmue 1 et 2. Mais alors là, pour le coup, c'est de la pure spéculation de ma part, mais la logique voudrait que ce soit lié.
C'est tellement logique qu'ils le décalent. Si le 3 est repoussé, c'est contre-productif à un moment donné de sortir les remasters des deux premiers trop longtemps en avance.
Donc annonce en décembre, parce que le PlayStation Experience
annonce en décembre, sorti en février, je vois bien.
Ouais, ce serait pas fou.
Je pense que ce serait un bon mois février pour éviter d'autres grosses putain de grosses sorties qui vont arriver après. Donc ça serait ça, enfin le planning, je le verrais bien comme ça.
Mais si c'est ça,
si j'étais monsieur Sega, en tout cas,
moi en 2018 je vais mourir.
Oui.
Yakuza 6 qui sort
dommage.
Chez nous, Shenmue 1 et 2 HD, potentiellement Shenmue 3 qui arrive, ils vont peut-être nous sortir Kiwami 2 aussi. Je pense que je vais saigner du sang bleu là.
Peut-être que Sonic Mania 2 va sortir aussi, tu vois, tout est possible.
Mais là Sega cette année, Puyo Puyo Tetris, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Persona 5, même si c'est indirectement Sega, et Sonic Sega. Mania, ils nous ont fait plaisir cette année. Et ça va continuer potentiellement.
Et d'ailleurs, on va le dire, vive Sega. Voilà. Merci Sega.
Sega.
Je crois qu'on a bien parlé de ce thème numéro 2 qui est Shenmue 3.
On pensait passer très vite.
Et en fait, on n'en a pas parlé du tout très vite. On en a parlé beaucoup et tant mieux. C'est aussi ça. N'hésitez pas, vous, de votre côté, évidemment, qui nous écoutez ou qui nous regardez, à nous dire ce que vous pensez de ce trailer de Shenmue 3 et ce que vous pensez de Shenmue 3 de manière générale. C'est aussi le cas d'ailleurs avec Red Dead Redemption 2. N'hésitez pas à nous dire. On va passer au dernier thème. Ce sont les tests de la semaine, mon cher Julo.
Ben oui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses.
C'est la grosse sortie là.
Alors, si j'ai bien compris, on commence avec Forza Motorsport 7.
Absolument.
Alors, pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, il se trouve que j'ai eu très très peu de temps pour y jouer.
Parce que t'as fait la fête tout le week-end,
lundi. Bah non, mais j'avais des trucs effectivement à faire. On l'a eu vendredi. Ou jeudi soir, enfin je veux dire, juste au moment où les gens qui avaient précommandé la version ultime pouvaient déjà y jouer, etc. Donc c'est assez compliqué. D'habitude, les Forza, on les a au moins une semaine et demie en avance pour pouvoir avoir le temps de le tester. Donc le test sera en retard, et je m'en excuse, je suis désolé.
Mieux que ça.
Pardonnez-moi, mes doux seigneurs.
Voilà, c'est mieux.
Malgré tout, on y avait quand même déjà pas mal joué sur Xbox One X, version qui est peu ou prou exactement la même que sur PC, en 4K, 60 FPS, super impressionnante, etc.
D'ailleurs,
et là, pour le coup,
allez voir les vidéos de Poufy d'ailleurs.
Bah,
hein,
les vidéos qui passent actuellement. Non, ça c'est un trailer. Voilà.
Ils disent que c'est du in-game 4K.
In-game 4K. Bon, cela dit, voilà, sans sans trahir quoi que ce soit, non, le jeu est en 4K native et 60 FPS sur PC et sur Xbox One X. Sur Xbox One normale. Et c'est là qu'est la surprise depuis qu'on a reçu le code, c'est qu'on le teste sur une Xbox One normale et que le jeu est quand même très beau.
Super beau, ouais.
Ouais, franchement, très beau. C'est en 1080p 60 FPS. Et bah tiens, regardez, voilà les images qu'on voit à l'écran.
Vous êtes bien en 1080p tous les deux.
Voilà. Donc là, on est sur la démo, hein, je crois, à ce moment-là. Si je dis pas... Ah, non, c'est la version dev qu'on avait commencé à faire.
Absolument,
oui. Oui, tout à fait.
Ouais, j'étais venu faire
donc
le
là, ce que vous voyez, c'est la version Xbox One, si vous avez l'image, cher membre premium. Donc c'est très beau. Hein.
C'est magnifique, c'est pas très beau, c'est magnifique.
C'est magnifique. Ça, c'est le nouveau circuit.
De Dubaï.
C'est le seul et unique nouveau circuit. Alors, sans vous faire un test là, ni. Vous dire la note que je compte lui mettre parce que là pour l'instant c'est encore un peu hésitant et un peu flou parce que j'ai pas encore assez joué, mais il y a un seul nouveau circuit, c'est celui-là, c'est celui de
Dubaï.
Merci, parce que tu sais que j'ai des problèmes à chaque fois à ressortir. Ouais. Les rochers que vous voyez sur les côtés de la piste là, qui sont ultra bien faits,
l'effet de rushing.
Ouais, l'effet de rushing est magnifique. Alors en fait c'est les photos photogrammétrie, je crois ça s'appelle.
C'est ça.
C'est super beau.
C'est super bien foutu. Malgré tout, c'est le seul et unique nouveau circuit. Voilà. Tous les autres circuits sont des circuits qu'il y avait dans le Forza précédent et d'autres plus anciens, qui sont refaits, évidemment, hein, pour accueillir comme il se doit ce nouvel épisode. Le jeu est sensiblement identique à ce qu'on a connu dans les épisodes précédents. Il n'est pas forcément ultra surprenant. Le mode solo a été un peu repensé de manière assez agréable, je dois dire. C'est vrai qu'il est moins chiant que les modes solo habituels dans Forza.
Ils sont un peu inspirés d'Horizon,
pas chiant,
non,
mais plan. Non, ils sont pas du tout inspirés d'Horizon.
Bon, bah tant pis alors.
Alors la grosse nouveauté que je trouve être vraiment, alors là pour le coup c'est vraiment dommage, ils ont changé un truc. Là ce qu'on voit à l'écran, c'est la collection de voitures. Ça n'a rien à voir avec la déception dont j'allais parler, mais j'en profite parce que c'est à l'image. Ils ont vachement forcé le côté collectionnite. Voilà. Tu collectionnes tes petites voitures là, tu vas par catégorie 1, 2, 3, 4, 5 et tu peux aller sur la droite. Il y a 700 bagnoles en tout, 700. Et désormais il y a un niveau de collectionneur, c'est à dire que plus t'as de voitures, plus tu grimpes en niveau de collection. Là, ça c'est les voitures de niveau 1, niveau 2, etc. Et plus tu grimpes, bah, plus les récompenses que tu gagnes à la fin de chaque niveau d'expérience sont intéressantes. Voilà. Donc tout est fait pour te donner envie de collectionner, d'avoir le plus de voitures possible, etc. Le côté micro-machine là, avec ce petit tableau, c'est quelque chose qui a été très forcé là cette fois, et c'est assez sympa. Mais par contre, ce qui a changé et qui est vraiment décevant, c'est que vous savez, dans les Forza, c'est un jeu qui peut vraiment aller de l'arcade à la simulation, toujours dans une sorte de compromis quand même bien plus gentil que celui de Project Cars, pour le citer que lui. Et donc tu peux activer ou désactiver des aides au pilotage, et le fait de désactiver une aide au pilotage te permettait de gagner 10% par exemple de plus à la fin de la course en crédit et en expérience, si tu avais désactivé par exemple la trajectoire idéale. Ensuite, si tu désactivais l'ABS, l'aide au freinage, l'assistance au freinage, et ben tu gagnais encore 10%, et tu pouvais multiplier par 2, par 3 les gains que tu avais en fin de course si tu faisais ça. Donc en fait, on récompensait les joueurs qui ne jouaient pas en mode arcade mais qui jouaient plutôt en mode simu, en les faisant progresser du coup plus vite, etc. C'était une super idée qui a été reprise dans absolument tous les Forza depuis que ça a été introduit, je crois, dans Forza 3, si je dis pas de bêtises.
Et là c'est plus le cas
du tout. Le seul truc qui te fait augmenter ton nombre de crédits supplémentaires, ton pourcentage de crédits supplémentaires, c'est le fait de régler l'IA sur plus ou moins difficile, un niveau de difficulté plus ou moins difficile. Et il y a un deuxième truc, c'est les mods. Tu peux installer des mods avant chaque course. Par exemple, si tu finis premier, tu auras 10% en plus. Si tu finis à 25 mètres devant le deuxième, tu auras encore 25%
en plus. Objectifs que tu
c'est
peux...
des objectifs en course. Pas forcément des objectifs, d'ailleurs. Il y a des mods, c'est des petites cartes en fait. Tu as 4 slots pour mettre 4 cartes différentes. Par exemple, là, celui qu'on voit, VIP, qui était à l'image là, c'est juste pour doubler tes gains. Voilà. Mais c'est des cartes qui sont pas à usage, qui sont à usage unique, ou qui ont 3 ou 4 usages maximum. D'accord. Voilà, donc je trouve pas que ce soit une grande idée d'avoir supprimé ce principe là de
aide, de récompenser aide la en moins de
égale, bah, c'est dommage, ça donne de la profondeur quand même, mais...
et du coup ça force un peu les gens, ça ne force plus les gens à jouer en simu et à désactiver les trucs, parce que tout le plaisir de Forza il est vraiment dans le pilotage, et là pour le coup ça n'a pas changé, c'est un pur bonheur, c'est le meilleur compromis qui ait jamais été fait je trouve dans un jeu de bagnole entre arcade et simu, c'est à dire que t'as des vraies réactions de physique qui sont intéressantes, qui rendent la jouabilité intéressante, mmh. Et en même temps c'est pas aussi intransigeant qu'un Project Cars lorsque tu enlèves les aides, etc.
D'accord.
Pour les autres choses à dire sur ce nouvel épisode, bah, les conditions climatiques que vous voyez à l'écran, donc évidemment ça ajoute énormément. Elles sont évolutives cette fois, donc ça c'est quand même vachement bien, parce qu'il y avait déjà de la pluie dans le précédent épisode avec le fameux principe de flaque qui était génial et qui est toujours génial. Là les flaques se forment toujours, mais cette fois les situations sont changeantes en pleine course. Tu pars, il fait beau, d'un seul coup il flotte, il y a un orage, ou alors tu commences la course en fin d'après-midi, il commence à faire nuit, il fait nuit noire quand tu termines, ou au contraire t'as le lever du jour, etc. Enfin, ça ajoute un scénario visuel à chaque course qui est hyper agréable et qui change beaucoup l'immersion et la façon de piloter aussi, hein. Évidemment quand t'es dans le noir total t'es un peu moins confiant quand t'es sous la pluie aussi, et puis bon bah alors on le disait un peu au départ, hein, c'est magnifique, voilà, c'est super beau, ça tue la gueule, y compris sur une Xbox One classique. Après il y a quand même un gap notable, hein, avec les versions PC et Xbox One X, que vous avez peut-être pu voir dans une vidéo comparative qu'on a publiée sur Gameblog. Il y a un gap visible, mais disons que la version Xbox One classique n'est pas au rabais. Très loin de là, très loin de là. Gros effort sur l'aspect sonore, etc. Sur la réalisation d'une manière générale, quoi. En fait, c'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus cool à jouer. Il y a de plus en plus de nouveautés. Voilà, il y a 700 bagnoles. Je dirais pas que c'est complètement révolutionnaire. Non, c'est juste, c'est mieux qu'avant et encore mieux qu'avant, sans être hyper surprenant, quoi.
D'accord.
Voilà. Après, t'as toujours tous ces modes géniaux, genre le mode rivo, le mode en ligne qui est parfait, le mode rivo. Vous voyez ce que c'est, hein, genre t'as le ghost de Poufy sur telle course et tu dois essayer de le battre. Une fois que tu l'as battu, il reçoit une notification, etc.
Qu'est-ce que t'en sais ? Tu l'as jamais battu ?
Oui, c'est vrai. Lui, il le sait parce qu'il le bat tout le temps. Et t'as le mode en ligne qui est très complet, où tu peux forcer la désactivation des aides par exemple, ce genre de truc. Là c'est le niveau de Prague qui est magnifique, magnifique.
Bon, tout ça pour dire que donc le test est en cours au moment où on enregistre ce podcast. Donc pour les premium, le test n'est pas encore paru. Pour les personnes qui ne sont pas premium, qui écoutent ce podcast,
il sera mercredi, peut-être pas paru,
il est peut-être paru,
peut-être pas.
Pour les personnes qui l'écoutent dans deux semaines, on donne la note.
Voilà.
Alors, Gélo, la note pour les gens qui l'écouteront dans deux semaines.
Et ben, ce sera 8 ou 9. Voilà.
Ça sera entre 8 et 9.
Plus vers le 8 au départ de.
D'accord, voilà. Ça, c'est pour les gens qui l'écoutent dans deux semaines. Hein. Je répète.
J'espère
pour les gens
qui
écoutent dans deux
juste
semaines.
Avant.
Voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas la balise de spoiler juste avant d'écouter. Donc, Forza Motorsport 7 qui sort quand déjà sur Xbox One ?
Le 3 octobre, monsieur. Mais le truc, c'est que les gens qui l'ont précommandé, comme je le disais,
vous pouvez y accéder
le 3
jours
octobre, c'est mercredi. Donc, c'est pour le même jour que ce podcast. Voilà.
Absolument.
Voilà.
Bon, on va continuer avec un autre test qui lui est paru parce qu'il y en a qui travaillent bien à la rédaction. Voilà, exactement. Des gens qui bossent. Et c'est toujours un jeu Xbox One et PC.
Vraiment, je me casse en fait. Hein, c'est ça.
Et c'est Cuphead.
Extraordinaire.
Mon cher
là,
Thomas.
Je ne sais pas si on l'entend au micro, mais mon cœur bat très très fort parce que première chose à dire, c'est que c'est évidemment un jeu magnifique. C'est une direction artistique absolument incroyable, et c'est en plus le représentant d'un genre, savoir le run and gun qui tend vers le boss rush en l'occurrence, qui est tellement peu représenté de nos jours. Que avoir un jeu d'une qualité pareille où le moindre tableau fourmille de détails visuels, et ben c'est un bonheur de tous les instants, même si c'est inhérent au genre monstrueusement dur, parce que c'est le stage dont je vous parlais tout à l'heure avec le homard. Alors, c'est celui que j'ai mis une heure à finir hier.
Monstrueusement dur, Thomas, donc tu confirmes, toi pourtant qui es un habitué du run and gun et qui nous a quand même fini le premier niveau.
Du premier coup,
du premier coup, hein, de Cuphead. Tu confirmes donc que vraiment le jeu est ultra dur et que, je sais pas, si je le compare à un Metal Slug par exemple.
Metal Slug, ça va, ça, c'est gérable. Enfin,
ok, pour moi, puis, ça l'est pas, par exemple.
Et en plus, non, mais en plus, dans Metal Slug, il y a des continues. C'est-à-dire que là, ouais. dans Cuphead, que ce soit un niveau de run and gun, que ce soit un boss en shoot ou un boss classique, même s'il y a 5 ou 6 formes, il n'y a aucun checkpoint. C'est-à-dire que quand on perd ses 3 points de vie, on recommence quoi qu'il arrive depuis le début. C'est non négociable.
De quoi, pardon? On recommence depuis le début,
depuis le début du niveau, depuis le début
du boss.
D'accord.
Je pensais à début du jeu, je pensais à Megaman. Là,
mais à une époque, on n'aurait même pas eu besoin de le préciser. Ouais. Là, c'est juste qu'en plus, à la fin, c'est-à-dire qu'au moment où tu meurs, t'as une espèce de timeline qui te situe, en fait, qui situe ta mort par rapport aux différentes phases du boss ou à l'avancement du niveau. Du coup, ça permet ou de te dire «
Ah, je suis mort à la dernière seconde,
voilà,
comme un con ».
Voilà, c'est ça. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois hier. Et il faut préciser aussi que ce jeu a été développé à la base par deux frangins qui sont partis billes en tête tous les deux avec cette idée-là, à savoir faire un run and gun à l'ancienne avec des graphismes qui sont plutôt un hommage, une ode aux cartoons des années 30 et 40. On retrouve tellement d'influence. Oula, ouais, c'était un peu tendu là sur la vidéo. On retrouve tellement d'influence et de clins d'œil, de parodies, de tout un tas de vieux dessins animés qu'on a pu regarder étant jeune.
C'est parfait.
Bah, là pour le coup c'est le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'au niveau du gameplay c'est simple, efficace, mais ça marche merveilleusement bien parce qu'il y a une véritable courbe de progression sur chaque niveau, c'est-à-dire que le principe c'est quand même à la base de mourir encore et encore et au fur et à mesure de découvrir les différents patterns des boss en fait, de les apprendre, de commencer à avoir des réflexes que ce soit visuel ou musculaire, on finit par développer tout un tas d'automatismes en fait et on sent véritablement qu'on progresse à chaque fois petit à petit. Il faut évidemment gérer sa frustration mais là pour le coup c'est un jeu pour lequel chaque victoire c'est une libération, t'as envie de te lever de ton canapé et de hurler à la face du monde voilà que t'as réussi un exploit et à chaque fois ça fait un petit peu le même effet.
Je reviens sur cette difficulté, est-ce que c'est une difficulté qui est abusée ou est-ce que c'est une difficulté j'ai envie de dire juste, tout simplement juste, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de totalement arbitraire ou
alors non, ça n'est jamais arbitraire, la maniabilité est parfaite, il y a pas d'input lag, c'est ce qui explique peut-être aussi qu'il y a pas de mode coop en ligne,
de même pour le placement des ennemis, l'envoi de leur boubou,
voilà,
des trucs comme ça.
Si on veut pinailler, il y a quelques niveaux ou quelques phases de certains boss durant lesquels il y a des éléments en fait qui viennent au premier plan qui viennent masquer un petit peu et du coup on peut se prendre des coups un petit peu injustes à ce moment-là. C'est quand même globalement assez rare. Le jeu est juste. Le jeu est très 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 difficile, mais il est juste et c'est un peu obligatoire pour ce genre de.
D'autant plus juste d'ailleurs que tu disais juste avant que tu parlais de la marge de progression qui est absolument. Enfin, je veux dire, tu la sens tout de suite.
On va dire qu'elle est lente, mais continue.
Voilà, c'est ça. À chaque fois que tu recommences un niveau, t'as l'impression de progresser, quoi. Et plus les niveaux avancent, plus c'est difficile. À tel point que bah, j'imagine que t'es revenu sur les premiers niveaux une fois que t'étais allé un peu loin et que tu t'es rendu compte que bah, tu masterisais vachement
c'est
mieux.
C'est ce que je disais à Poufi tout à l'heure. Quand on repart affronter les premiers boss, histoire de voir si on peut améliorer sa note, parce que chaque niveau décerne une note à la fin en fonction de ce que vous avez fait. Bah voilà, là, par exemple, les grenouilles, on se dit ah, putain, mais qu'est-ce que c'était facile. En fait, il y a tellement peu de choses à prendre en compte et du coup c'est vrai qu'en quelques heures tu sens à quel point tu as progressé en fait, à quel point tu maîtrises le jeu, sachant qu'en plus au fur et à mesure là sur la vidéo que peuvent voir les membres premium c'est le tir de base parce que c'est le début du jeu qu'on a fait tous les deux Julo dans un live qui est toujours disponible sur Gameblog, mais au fur et à mesure qu'on progresse on peut acheter en fait différentes armes qu'on peut équiper en armes principales ou secondaires, on finit par débloquer des attaques super qui permettent d'en mettre plein la vue ou de devenir par exemple invincible. Là effectivement elle est complètement loupée mais ça m'avait permis de ne pas être touché pendant cette phase de transition, donc il y a quand même plein d'éléments qui mis bout à bout vont te permettre d'aborder chaque niveau de manière un petit peu différente, c'est-à-dire que à un moment donné quand t'es mort une cinquantaine de fois sur un niveau tu vas commencer à te dire que ah tiens mais telle arme sur telle phase de tel boss ce serait quand même vachement plus pertinent etc et tu ajustes au fur et à mesure tes capacités en fonction des combats ou des niveaux. Mais pour prendre conscience de ce qui est le plus efficace, il faut bien évidemment être mort.
Non mais là ce que je vois à l'écran, c'est infernal.
Non, c'est fastoche, c'est le premier monde.
Non, c'est infernal.
Mais non, regarde, c'est hyper lisible.
Mais j'aurais déjà pété ma manette.
Mais non, et en plus les décors sont super jolis, c'est-à-dire que le jeu est magnifique et en plus au niveau des décors, au niveau des personnages, ça raconte toujours quelque chose. Tu vois que tous les personnages, ils sont mignons, mais ils sont pas niais. ils ont ce côté un peu dark caché qu'avaient les cartoons de cette époque-là, ouais. Où il y a quelque chose de malsain et de positif en même temps. C'est assez drôle. Et là, on voit un boss qui est défait. Mais chaque animation est magnifique. Là, on voit Cuphead, le personnage principal, qui est impossible qui n'arrive pas à rester stoïque. Il est obligé, comme Mickey dans Steamboat Willy, de se déhancher comme ça en permanence.
Et on voit les petits défauts. Mickey qui était un peu dark sur ses
premiers.
Et Donald. Oh putain, Donald.
On voit les petits défauts dans l'image, tu sais, les espèces de petites lignes qui passent comme ça, comme
la
sur les vieilles.
Sur les pellicules.
Oui, on voit le grain d'image.
Et en fait, t'as la même chose au niveau du son, parce que t'entends le souffle du vinyle également. C'est assez génial, ouais, le craquement.
Non, mais ça a l'air extraordinaire. Hein, donc,
Et là, on voit un menu, voilà, le souci du détail a été porté également au niveau des menus. On voit le copyright 1930, on voit ces couleurs un petit peu affadies, etc. Ils ont vraiment, vraiment crier tout leur amour à un genre qui est un peu tombé en désuétude.
C'est le genre de jeu en fait qui te, si tu persistes, qui te rend meilleur en jeu vidéo. Tu sais, tu vas gagner du skill.
Du skill, sans doute.
Jeu vidéo meilleur aussi.
Oh oui.
Il prend un peu le meilleur des deux mondes, parce que c'est un petit peu comme si Gunstar Heroes rencontrait Alien Soldier, qui sont deux run and gun et un boss rush de chez Treasure, qui sont parmi les meilleurs du genre, les meilleurs qui aient été produits tout simplement.
Mais alors je regardais les images qu'on voyait tout à l'heure du jeu. Au moment où tu lançais un niveau, il y avait marqué choix de la difficulté entre simple et normal.
Simple et régular.
Et toi, tu jouais donc en régular. Et
tu es un peu obligé.
Et quand tu joues en simple, ça change quoi ?
Alors quand tu joues en simple, les patterns de boss sont ou plus courts, voire certains disparaissent complètement. Sauf que tu ne valides pas véritablement le niveau en fait, puisque à la fin il y a cette note qui t'est attribuée, qui tient compte donc du skill, c'est-à-dire du niveau de difficulté que tu as choisi. Et comme le but en fait, c'est que Cuphead et Mugman défassent tous ses ennemis. Parce que ce sont en fait des mauvais payeurs qui ont pris créance auprès du diable et qui ne l'ont jamais remboursé. Si tu finis un niveau en simple, tu n'as pas recouvré la dette du diable, et donc tu peux progresser sur la world map. En fait, tu peux aller voir les niveaux d'après, éventuellement acheter de nouvelles armes, etc. Mais à un moment donné, si tu veux passer au monde suivant, tu vas être obligé de revenir en arrière et tu vas être obligé de les défaire en mode régulier, parce que
tu peux pas terminer le jeu en simple.
Non. Non, et ça fait partie du gameplay.
C'est vicieux.
C'est très vicieux.
Mais visuellement, c'est à tomber par terre.
C'est extraordinaire.
C'est un des plus gros jeux du monde.
On donne du blé à ces mecs pour qu'ils mettent pas 8 ans pour leur prochain jeu s'ils ont envie de faire un Cuphead 2.
Ça tombe bien que tu en parles, parce que là, on a eu les premiers chiffres de vente Steam qui sont tombés pour le week-end de sa sortie.
Plus de 100 000 ventes en un week-end.
Presque 125 000 exemplaires sur Steam uniquement en l'espace d'un week-end. Donc autant dire que pour les...
Pourquoi on vit dans un monde pas si pourri ?
Voilà. Ouais. Non, mais c'est quand même une belle rétribution, parce que les deux frangins qui ont monté le studio MDHR ont quitté leur boulot, ont hypothéqué leur maison. Ça a été des sacrifices,
c'est vrai, oui.
et un pari, je veux dire, énorme sur le plan humain. T'embarques toute ta famille là-dedans. Moi je trouve ça fabuleux qu'il y ait une réponse si favorable des joueurs tout de suite, dès la sortie.
Et d'autant plus, surtout si tu nous dis, toi,
viens pas de ce que je vois depuis tout à l'heure,
Thomas.
Et pourtant j'y ai déjà joué plusieurs fois, moi, à Cuphead avant, dans les salons et trucs comme
ça. C'est vrai que tu passes ton temps à halluciner sur la qualité des images.
Donc surtout si toi, Thomas, tu nous dis que le jeu est fantastique. Donc il a eu 9
indispensables
sur Gameblog.
Knockout.
Et le test est évidemment toujours disponible.
Moi je suis à la place de Disney, mais ces mecs là je leur fais la cour comme pas possible. Rappelez-vous de Mickey Mania sur Super NES, qui reprenait différents vieux cartoons de
l'histoire de Mickey. Ouais,
imaginez on va dire une sorte de remake de Mickey Mania, mais avec cette qualité de réalisation.
Ah là là. C'est pas le Mickey que Disney a envie de mettre en avant, je pense, malheureusement.
Oui, tu prends des cartoons.
Nous, ça nous
prend des cartoons plus récents.
On va dire que je pense que pour eux, c'est plutôt une époque révolue, en fait.
Oui, bien sûr.
Malheureusement.
Mais si tu voulais faire un jeu un peu historique qui reprend les différentes époques, c'est eux, ils ont compris comment faire un jeu qui ressemble vraiment à un cartoon, quoi, un vieux cartoon des années 30.
Là, je me trouve tellement mauvais sur cette vidéo, tu vois. Je dis, mais comment je peux ne pas voir tel ou tel truc avec le recul, voilà.
Bah voilà, c'est parce que tu commençais à y jouer seulement.
Mais c'est splendide, vraiment.
Donc jouez-y vraiment.
Une version boîte, s'il vous plaît. Moi,
c'est pas mal aussi.
Je me réserve pour une éventuelle version boîte.
On le rappelle, du coup, c'est disponible sur Xbox One et PC.
Pour 20 euros.
Pour 20 euros.
Absolument. Et donc, ça a l'air merveilleux. Bon, on va continuer cette petite séquence sur les jeux de la semaine, les tests. Alors, un troisième jeu qui... Le test n'est pas encore prêt du tout non plus, puisque comme Julo, j'ai eu le code du jeu vendredi, et donc il a fallu y jouer un tout petit peu. C'est Battle Chasers Night War, que j'avais eu l'occasion de voir à la Gamescom XCOM RPG, donc qui est conçu par Airship Syndicate, qui est la boîte de fondée par Joe, je sais jamais si je dois dire Joe.
Je crois qu'ils disent Joe
Madureira.
Ils disent Joe.
Ouais, bah, alors Joe Madureira, le dessinateur qui s'était notamment beaucoup impliqué dans Darksiders, c'est son trait de crayon, son coup de crayon qu'on voit là à l'écran pour les premiums.
Ça se reconnaît.
Ah oui, ça se reconnaît assez facilement. Et donc j'ai pu commencer à y jouer. Bon, c'est très long, c'est un RPG, donc c'est très difficile.
RPG à l'ancienne et à la japonaise.
À la japonaise en ce qui concerne les combats qui sont tour par tour, avec des tonnes vraiment de paramètres à prendre en compte hein, pour les combats. C'est très profond, vraiment. C'est au moins, s'il y a bien une chose que je peux dire tout de suite, c'est que le système de combat, le système de custom, le système de crafting, tout ça mis ensemble dans le package, c'est très très profond. Il y a notamment une idée que je trouve assez lumineuse qui concerne la mana. Chacun des persos que vous allez dans votre équipe de 3 en fait a sa barre de mana, mais quand il donne des coups de manière générale, ça lui fait monter une petite jauge qui s'appelle la jauge de surpuissance ou de superpuissance, non de superpuissance peut-être. J'ai peut-être été un peu vite en disant surpuissance. Bref, et cette jauge qui augmente au fur et à mesure que vous donnez des coups peut être utilisée en substitut de la mana qui elle s'épuise normalement hein, pendant les combats, et du coup ça apporte une dimension stratégique supplémentaire parce que vous êtes à court de mana, vous dites je vais sortir du donjon pour retourner récupérer un petit peu à l'hôtel, non en fait vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez parfaitement commencer le combat, donner quelques coups et balancer un des pouvoirs magiques dans la foulée. C'est vraiment une idée qui est très bien placée, et il n'y a pas que celle-là hein, qui est bien placée.
Mais à contrario, du coup, tu peux aussi l'économiser pendant que tu fais des donjons et du coup te lâcher.
Alors,
après, sur le boss.
Alors c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est qu'à la fin du combat, toute la surpuissance que t'as accumulée disparaît. Pour le
combat
suivant.
Combat.
Mais
d'accord.
Il existe évidemment des possibilités de grâce à l'expérience et au point d'attribut, de te coller des petits trucs pour j'ai envie de garder tout ce que j'ai gagné en points de surpuissance de superpuissance pardon juste avant, pour que ça soit dans le prochain combat, ou alors que des objets aussi te permettent de faire ça. Il y a tellement de possibilités. C'est un jeu qui est assez joli. Alors problème pour les gens qui imaginaient que c'était la suite du comics qui s'est arrêté en 2001, c'est pas du tout le cas hein, c'est un spin-off, enfin on va appeler ça un filler en fait. Voilà, c'est comme un épisode de remplissage, ça se passe sur une île qui a rien à voir, c'est un scénario qui est totalement à part du scénario principal du comics, mais
comme
c'est très intéressant.
Quoi.
De comment ?
Comme un OAV.
Exactement comme un OAV, ça se passe sur une île qui s'appelle l'île du Croissant, où il se passe des trucs pas très sympas. Toute l'équipe arrive dessus, vont rencontrer un autre personnage qui va leur prêter main forte. Voilà, c'est ultra agréable à regarder. C'est il y a des bonnes petites musiques aussi. Le système de combat est plutôt sympa. Même si là, il y a un système qui moi me déplaît un peu, qui oblige. Le fait est que vous devez utiliser seulement 3 personnages actifs par combat, et que les autres qui sont en retrait, il peut y en avoir jusque 3 là où j'en suis en tout cas, eux ils gagnent pas de points d'expérience à la fin du combat, même pas un petit peu. Donc du coup vous allez grinder comme un malade pour essayer de mettre tout le monde à peu près à égalité, parce que chacun a quand même ses...
Ah, tu peux pas te contenter de 3 persos, t'es obligé de switcher de temps en temps.
Le fait est que il y a tellement de choses à gérer, et il y a tellement de monstres différents qui ont des particularités qui vont faire que tu vas être obligé d'utiliser un certain type de perso pour les affronter.
Mais donc tu prends pas le risque d'en laisser un à la traîne en fait, et de te retrouver bloqué à un combat.
Ah ouais, t'es carrément
obligé. Petit détail quand même qu'on n'a pas dit jusqu'ici, mais je viens de voir avec le logo. C'est un jeu que t'es en train de tester sur PS4.
Absolument.
Qui sort aussi sur PC, Xbox One et aussi sur Switch.
Mais sur Switch il a été repoussé un peu plus tard. On sait pas
mais
quand
je
exactement.
Crois que la version que t'avais découvert à la Gamescom était sur Switch, non?
Pas du tout.
Ah d'accord.
Non,
pensais.
Elle était montrée sur le stand Nintendo. Mais en ce qui me concerne, j'avais vu la version.
Parce que étant donné que c'est un RPG au long cours, a priori c'est à l'ancienne à tous les niveaux, donc c'est long.
Ouais, et c'est très très bien de l'avoir sur Switch.
En portable, ouais, c'est.
En espérant, et là ça va être un des gros points noirs de mon test, hein, que ce soit pas comme sur PS4, je suis sur la version 1.01, donc j'ai téléchargé un patch Day One sur ma version, et malgré ça j'ai un nombre de bugs incalculable. J'ai eu des freezes, des crashs, des boss de quêtes annexes qui n'apparaissent pas, des coffres que j'ouvre. et il y a rien non plus. Enfin, j'ai eu un nombre de trucs vraiment, mais
et t'as pas parlé de la narration, tout ça, c'est classique.
Ben la narration, elle est un peu en retrait. Il y a quelques cinématiques en mode comics,
dessin animé, ouais.
Qui apparaissent. Quand vous allez à l'auberge, quand vous vous reposez, il y a souvent des petites scénettes entre certains des personnages de votre groupe qui sont plutôt rigolotes. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, le scénario, c'est beaucoup de blabla en bulle, en écran fixe. Et c'est
t'es pas pris par l'histoire.
Ouais, c'est pas très développé. Je suis un peu déçu de ce côté-là. Ça fait très classique. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire encore au niveau du développement de l'histoire. Mais bon, encore une fois, j'ai quoi ? J'ai 10 heures de jeu dans les pattes. C'est franchement pas assez, je pense, pour se faire une idée de ce que vaut complètement Battle Chasers Night War, qui sort donc qui sort ce 3 octobre aussi.
Octobre,
hein,
ouais.
Ouais, voilà, mardi 3 octobre. Et si vous êtes premium, si vous n'êtes pas premium, la note c'est voilà. Bon bref, Battle Chasers.
On fera de l'editing, tu penses du coup ?
Non. Non, je pense qu'on demandera peut-être à Poufy de faire un montage un peu plus tard. Bref, ça se présente bien, même si j'ai quelques a priori un peu moyens sur certains trucs, notamment les bugs. Mais bref, c'est plutôt sympa. Voilà.
Merci Plumeau.
Jeu d'après, FIFA 18 sur Switch.
Ah, il m'avait étonné, moi, quand je l'avais découvert à l'E3, parce qu'il était hyper agréable à jouer.
Ouais, bah c'est toujours le cas sur la version finale. C'était agréable à jouer. Pour le test, j'y ai joué quand même pas mal. J'ai pu essayer aussi en ligne. Alors, en s'apercevant qu'en ligne, on n'a pas de possibilité de jouer contre un ami, ce qui est quand même un peu surchelou. Il y a à peu près tous les modes disponibles, notamment le fut. Vous allez pouvoir futer où vous voulez maintenant avec FIFA 18 sur Switch, qui est une
ouvrir
version.
Ouvrir un paquet de cartes dans le métro.
Exactement. Bon, vu que t'es obligé d'être connecté, à mon avis, non.
Ah oui, bah non.
Ouais, ça va être tendu. Mais toujours est-il que c'est une version donc qui n'est pas du tout au niveau des versions de FIFA 18 sur PS4, Xbox One et PC. On va dire que c'est un espèce de mix entre les trois derniers FIFA, quoi, 15, 16 et 17 parus sur PS4 et Xbox One, avec une réalisation qui est un peu au-dessus de celle d'une version PS3 360. Un feeling super agréable, vraiment. C'est plutôt chouette à jouer. On garde ce principe de... Enfin, ce principe. On va dire, le constat, c'est toujours que le type de jeu qui est privilégié, c'est l'attaque. À savoir que les attaquants sont quand même très avantagés, que les passes trouvent un receveur assez facilement. C'est pas un jeu qui est ultra technique et qui demande énormément côté construction. Il est vraiment agréable, ça c'est vrai. Il est très simple à prendre en main au début. Mais il y a un gros souci. Voilà, il y a un énorme souci. Et Julo peut en attester parce que je lui ai fait subir quand on a fait nos parties dessus.
Et moi, j'ai pas réussi à te le faire subir. Donc
Parce qu'il fallait trouver le bon dosage. Et qu'une fois que tu l'as trouvé, c'est bon. Bah, c'est les frappes de loin, en fait. C'est qu'à un moment, si vous décidez de faire une frappe entre 35 mètres et l'entrée de surface, et que vous trouvez le bon dosage pour que la balle soit...
En diagonale, hein, le plus souvent.
Non, pas en diagonale, tout droit. Si elle est bien dosée pour, on va dire, être à mi-hauteur, entre mi-hauteur et juste en dessous de la barre, le gardien ne l'arrêtera jamais. Voilà, c'est comme ça. Ça sera sûrement patché. Mais toujours est-il que le gardien qui peut vous sortir des frappes, qui peut vous arrêter des frappes à bout portant, etc., bah sur ces frappes-là, il n'est pas présent du tout. Et c'est un gros problème que j'ai évidemment sanctionné dans le test, parce que on a un jeu agréable malgré tout, et de ce côté-là, on se fait un peu avoir. Voilà, c'est dommage, parce que FIFA a un boulevard. Hein, il n'y a pas d'autres jeux de foot sur Switch. En tout cas, il n'y a pas PES cette année. Donc, il y avait peut-être moyen d'essayer de faire attention à ce genre de détails. Toujours est-il que, bon, si on nommait cette grosse bourde, ça reste un jeu de foot néanmoins sympathique.
Satisfaisant.
Voilà. Exactement, satisfaisant.
Puisque tu l'as mis 6, je
crois. Et surtout, vous pouvez y jouer où vous voulez. Et ça, c'est un gros avantage. Même si vous y jouez en mode tablette dans le train avec un copain, prévoyez de prendre une deuxième manette. Parce qu'avec deux Joy-Con, c'est un peu compliqué.
C'est comme tous les jeux qui se jouent avec deux Joy-Con. Je pense qu'il faut vraiment utiliser les Dragon, parce que ça simplifie la vie en termes
d'ergonomie,
etc. Ouais. Avec les Dragon, c'est beaucoup mieux quand même.
Notamment, mais surtout, c'est pour les tricks.
Oui.
Vous n'en ferez pas. Voilà, il n'y a pas de stick droit, pas de tricks. C'est comme ça.
Voilà, pas de bras, pas de chocolat.
Exactement.
Voilà.
Et j'ai une question, oui. Plumeau, de mémoire sur, à l'époque de la Wii, quand oui. ils sortaient FIFA dessus,
oui,
j'utilisais le gameplay avec détection de mouvement, ouais. comme ça. Est-ce qu'il y a un équivalent avec les Joy-Con là?
Non, je crois que là ils ont compris.
Ce qui sera le cas, pardon, de Resident Evil Révélation ouais. 1 et 2, qui
oui,
tu pourras viser comme dans Resident Evil.
Impression sur Gameblog.
Voilà. Oui. Et est-ce que ton baby vibration HD est utilisé ou pas?
Il y a des vibrations, mais c'est pas.
Pas HD.
C'est pas. Enfin, tu vois, c'est, on ne dit pas. Enfin, tu vas pas sentir le ballon frapper sur un endroit de Joy-Con comme si c'était ta godasse. Non, ça vibre comme d'habitude. Tu frappes sur le poteau, il y a une action chaude, mais c'est tout quoi.
Donc il y a de bonnes bases.
D'excellentes bases.
Mais ils ont encore une marge de progression et de sophistication.
Oui, il faut qu'ils bossent.
Absence totale du mode aventure, tu l'as peut-être dit.
Non, le mode aventure n'y est pas.
Voilà,
c'est vrai.
Donc ça, c'est quand même grosse déception. Moi, je pense à mon fils par exemple qui adore le mode aventure. Bah.
Bah, il coup, pas,
le fait qu'il soit absent, voilà.
Le mode aventure est pas là.
Bah, surtout qu'Alex Hunter dans FIFA 18 peut aller au PSG.
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui, il reste pas bloqué en Angleterre.
Il y a pas non plus les nouveautés du mode carrière, c'est-à-dire le fait de pouvoir assister toi-même aux transactions, aux tractations, pardon, avec les joueurs que tu souhaites recruter. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui disparaissent un peu bizarrement. Mais à mon avis, ils ont pas eu beaucoup de temps pour le faire.
Oui, ça sent le rush justement.
C'est
ouais,
à mon avis, ils ont dit bon,
oh là
c'est le moment.
Mais ça cartonne la Switch en fait.
À mon avis,
pourtant,
ils ont
dit.
Eh les gars, vous travaillez bien sur un FIFA Switch.
À mon avis,
c'est pas prévu.
20 octobre.
Mais qu'est-ce que vous attendez?
On peut la faire. Si vous voulez. On est le 20 octobre 2016, le trailer de la Switch vient de paraître. On est chez EA. Roger, oui. Je crois que ça marche bien la Switch. Il y a des gens, ils en parlent. Ah bon, t'es sûr? Ouais, j'en suis sûr. Ouais. Ça te dit, on fait FIFA 18 dessus? Oui, bon.
Ah, parce qu'à la conf de janvier, ils l'ont annoncé, mais ouais. Ils avaient juste montré un logo sur la scène.
Ouais, à mon avis, ils l'ont appris vraiment sur le tard, parce que le Frostbite, qui est le moteur, on va dire EA pour tous les jeux aujourd'hui, est censé être compatible Switch, mais c'est pas celui-ci qu'ils ont employé pour cette version. C'est un moteur propriétaire. Donc, je pense que l'année prochaine, il y a des grandes chances quand même que ce soit un autre niveau. Alors voilà. Que c'est déjà pas mal, mais bon.
Ce qui est bien mais pas top. Allez.
Exactement.
Bon, on va finir avec la Super NES Mini.
Bah oui, puisqu'on a fait un test aussi, hein, la console chez nous. Ça prend.
C'est 9.
C'est 9 sur 10, merci. Voilà. Je vois qu'il y en a au moins qui suit.
Oui.
Voilà, bah, la Super NES Mini, tout le monde l'a à la rédac.
Oui, moi je l'ai reçu
tout
samedi.
Est content.
J'ai reçu vendredi.
J'ai déballé en disant à mes enfants, regardez ce que j'ai reçu. Alors ils étaient là, curieux et tout. Ça, c'était la console de papa quand il était ado et tout. Ah bon? Et
elle
là, ils m'ont
petite,
dit, c'est Nintendo? Oui. Et là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il y a Zelda? Direct.
Et oui, les enfants.
Moi, je l'ai dit
direct.
À ma
fille. Un Zelda.
Ah, je pensais que t'allais me dire, là, ils ont dit, j'en ai rien à foutre, passe-moi une clope, papa, s'il te plaît.
Il y a Zelda?
Moi, je l'ai dit à ma fille et elle a vomi son lait.
Ah ouais? C'est incroyable, ça.
Non, mais putain, la puissance de cette console et de ces jeux, quoi, quand même. C'est
avec
énorme.
Une sélection qui est quand même magnifique.
Ouais.
On pourra la juger, un tout petit peu restreinte.
Moi, je trouve, ouais.
Mais sur les 20 jeux qu'ils ont gardés, franchement, il y a.
Est-ce qu'il y en a un que vous jetez dans les 20 jeux?
Ah oui? Le Kirby Multi, ouais, Osef.
Kirby.
Le Kirby Multi.
Kirby, tout le monde aime Kirby.
Le Kirby Multi.
Vous n'aimez pas Punch-Out?
J'ai jamais aimé Punch-Out. Kirby, j'ai jamais aimé non plus.
Virez-moi Kirby et mettez-moi Chrono Trigger.
Bon, qu'est-ce que ça veut
voilà,
dire?
Voilà, non
ça
mais ça, il manque des trucs énormes quoi.
Non,
mais
c'est pas qu'il manque. Virez-moi Kirby, mettez-moi NBA Jam.
Il n'y a pas NBA Jam.
Mettez-moi DBZ, DBZ2, enfin la légende Saiyan. Voilà. Moi, il me faut NBA Jam et la légende Saiyan et peut-être un jeu de catch.
C'est-à-dire que moi, je suis tombé amoureux du petit objet. J'étais content de le commander. Pour qu'il arrive physiquement chez moi, ce petit objet magnifique, pour que je puisse en parler à mes enfants en leur montrant la console, que je puisse la brancher gentiment avec le truc USB, le machin, etc. La lancer la première fois, tout ça, tu vois. Mais en vérité, quand il réfléchit bien, tu te dis quand même que
t'as lâché 94 euros.
Bah,
pour
j'ai lâché
rien,
94 euros pour des jeux que j'ai déjà joué. Peut-être que je vais pas y rejouer d'ailleurs.
Ah oui, mais alors dans quelles conditions aussi? Parce que t'as les slots de sauvegarde, etc. Moi, honnêtement.
Oui, mais ça, tu les avais sur console virtuelle, sur Wii U.
Oui, mais là, t'as tout dans une petite machine.
Mais non, t'as pas tout justement.
Enfin, t'as tout. T'as la sélection, en tout cas, qui a été opérée par Nintendo, que tu peux à la limite emmener avec toi. Tu peux l'emmener au boulot, continuer ta partie. Enfin, moi, même si je les connais quasiment tous par cœur, honnêtement, les jeux qu'il y a dedans, j'ai envie de me refaire Secret of Mana, j'ai envie de me refaire A Link to the Past.
Ouais, mais Secret of Mana, tu peux y jouer qu'à deux.
Et d'ailleurs, en parlant,
Où est le multitap pour jouer à Secret of Mana 3?
L'un des autres problèmes qu'on pourrait soulever, c'est que tous les jeux de cette version sont en anglais. Donc, y compris les jeux d'aventure, y compris voilà, Zelda, Secret of Mana, bon, Final Fantasy VI.
Zelda,
c'est
je me suis retrouvé
normal
à tout traduire à mon fils pendant qu'il lançait sa partie, là. Tous les dialogues de la princesse Zelda au début et tout.
Voilà, c'est un scandale.
Ça peut être un petit bémol pour certains. Après, je veux dire, quand tu joues à Super Castlevania 4, quand tu joues à Contra 3, quand tu joues à Super Metroid, quand tu joues à Ghouls and Ghosts, enfin, voilà, c'est quand même pas si dérangeant que ça. Le plaisir est immédiat, il est... Enfin, voilà, c'est une sélection de jeux fantastiques. Bah,
sachant qu'en termes de mémoire, un jeu Super NES, ça occupe un espace ridicule, les jeux qui ont été traduits, ils auraient pu faire l'effort de mettre
les
versions.
Mais comment tu veux les vendre après sur Virtual Console quand ils vont apparaître sur Switch?
Traduit, c'est ça?
Bah oui, évidemment, parce qu'après il faudra bien les revendre, les jeux.
Par contre, moi ce qui me ravit avec la Super NES Mini, c'est la présence de Super Mario RPG. Parce que je me rappelle, je crois qu'il est sorti en 95.
Oui.
À l'époque, dans les magazines de jeux vidéo, je voyais les tests import de ce jeu. Tout le monde disait que c'était super. Et à plusieurs reprises, au fil du temps, je suis pas passé loin d'acheter. Parce qu'en fait, il est sorti au Japon et aux États-Unis uniquement.
Absolument, oui.
Et je suis pas passé loin plusieurs fois de m'acheter la version américaine. Parce que en japonais.
Mais c'était en fin de vie. La PlayStation était déjà là. C'était compliqué.
Non, c'est juste que je me disais, oh, ça fait quand même une sacrée dépense. Peut-être que c'est pas raisonnable. Et récemment, je suis retourné voir sur eBay par curiosité, parce que maintenant quand j'achète des jeux rétro, je les achète complets, boîte et notice, et Super Mario RPG US en boîte et notice, c'est 200 euros à peu près minimum. Donc là, je suis content d'avoir une release Super NES entre guillemets officielle chez nous de Super Mario RPG. Je vais enfin avoir l'occasion.
Je devrais peut-être en profiter pour revendre ma cartouche, moi, du coup, qu'elle décote.
La cartouche seule, c'est cher aussi, mais ça reste quand même plus accessible. La version boîte notice de Mario RPG, c'est
que FF6, ça doit être assez coûteux aussi.
Mais en tout cas, c'est un bel objet, et la sélection de jeux dans l'ensemble, elle est plus que correcte.
Il y a presque tous les genres. Effectivement, on occulte le sport, il n'y a pas de jeu de foot, il n'y a pas de jeu de basket.
Le problème, c'est que le sport, c'est lié aux licences des joueurs, voilà. Mais repasser un deal avec
Super Soccer européen, il n'y avait pas de licence ou quoi que ce soit.
Oui, le fameux.
Pareil, Super Tennis, il n'y avait pas de licence.
Non, moi je te parle des jeux liés à des.
Plus ma raison, Super Soccer, il n'y a pas de licence. Et en plus, c'est un jeu iconique du lancement de la Super NES aussi. Je veux dire, ça a parlé à énormément de monde à l'époque.
Ou même les ISS de luxe. Pas de licence si.
Enfin, moi je parlais uniquement de mon petit NBA Jam à moi.
En attendant, dans leur genre respectif, que ce soit plateforme, action, shoot, aventure,
course,
t'as des jeux cultes, voire cultissimes, qui ont marqué leur époque et qui sont aujourd'hui tous disponibles comme ça, presque dans le creux de la main, quoi, parce que cette console prend tellement peu de place que tu peux l'emmener en vacances, hein, tu peux faire plein de trucs avec. Donc,
tu peux te marier avec aussi, je pense.
En fait, c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors peut-être qu'effectivement, c'est pour pas faire de l'ombre à la console virtuelle par la suite, mais sachant
qu'on attend toujours,
qu'il y a assez peu de chances qu'ils sortent une Super NES Mini 2. Parce que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt de racheter l'objet une deuxième fois. Ils auraient pu la charger un peu plus en jeu. Ils avaient largement de quoi faire.
Bon, alors tu sais, comme de toute façon l'architecture de la machine est exactement la même que celle de la NES Mini.
Oui, elle va être
vu
habillée,
comme
etc.
La NES Mini s'est faite dépouiller en quelques jours.
Ah, t'inquiète, dans deux jours la console,
voilà,
on met 200 jeux dessus.
D'ici la fin de la semaine, voilà, je pense
c'est
que
un
tu
peu
peux
con.
Débloquer à peu près tous les jeux possibles et inimaginables.
Mais c'est un peu con, mais psychologiquement ça me fait pas pareil.
En plus. Oui, évidemment. Non, mais je te comprends, moi je suis comme toi. Donc,
moi, jouer à un jeu en émulation et jouer sur une release officielle, oui, c'est
oui,
de l'émulation.
Mais c'est officiel.
Mais c'est un produit officiel Nintendo.
Mais là,
et ça me fait pas
quand
pareil.
Quand tu vas la hacker et mettre les 200 jeux dessus,
bah,
ça sera la même émulation que celle que tu as déjà.
Je sais bien, mais t'auras pas le. Ou alors
ça
sera fait manuellement.
Mais les logos et tout.
Oui, mais moi, dans ma tête, je sais que c'est pas officiel. Et ça. C'est con, mais ça change un truc. C'est comme dans les jeux de catch.
J'ai le même problème que toi.
Dans les jeux de catch, quand t'as pas ton catcheur préféré dans le jeu, bah tu peux le créer. Mais à partir du moment où c'est un catcheur créé et pas un truc qui a été officiellement fait par les développeurs,
c'est pas pareil.
Et bah c'est pas pareil. Et là c'est pareil, tu vois, c'est la NES Mini. Moi j'ai la famille comme Mini, je l'ai pas hacké. Je suis resté avec les jeux de base. Même
tu veux
si...
montrer le bon exemple à ta fille en
non,
fait.
Non, c'est même pas ça. C'est juste que c'est pas pareil. C'est tout. Je peux pas l'expliquer autrement. C'est à l'intérieur de moi, ça me fait pas la même chose.
Voilà. Ça se respecte. tout ça, ça se respecte.
Cool, en tout cas, moi, il y a une question que je me pose, et Julo, tu pourras peut-être y répondre du coup, parce que tu l'as peut-être vérifié ce week-end. J'aimerais tellement voir la réaction d'enfants qui ont aujourd'hui l'âge que moi j'avais quand je jouais à la Super NES. Alors, quel est leur ressenti vis-à-vis de cette ludothèque?
Ils trouvent ça dur. Trop difficile, ouais.
Même sur Zelda, des jeux de plateforme, ouais.
Même Zelda, tu sais, il faut les.
Oui, parce que tu commences dans un donjon.
Les coups d'épée, il faut les donner dans un certain sens quand même. Tu te fais. Ouais, mon fils est mort plein de fois en y jouant. Donc j'ai dû l'aider pas mal.
Mais difficultés mises à part, ils sont pas repoussés par l'esthétique et non. Le côté un peu vieillot, mais sans voilà vintage, pas vieillot mais vintage.
Non. Après on n'y a pas, pour vous dire la vérité, joué très longtemps parce qu'on avait un milliard de trucs à faire ce week-end. Mais ils n'ont pas été rebutés. Non, ils ont été curieux en l'occurrence. Donc curieux et pas pas de réception négative vis-à-vis de la réalisation quoi. Donc voilà.
Bon. Je m'attends à ma fille, elle s'est endormie dessus.
Ouais, c'est tout.
Elle l'a utilisé comme coussin. Ah, donc c'est qu'elle l'a validé. Non, pas trop. Mais elle dort partout, donc c'est bien.
Bon, Walou. Voilà. Mais malgré tout, tu sais, ils auraient mis 10 jeux dedans, j'aurais quand même acheté. Oui. Ils en auraient mis 40, pareil. Enfin, c'est quand même.
Bah 40, c'est plus en même temps, donc c'est normal.
C'est une Madeleine de Proust. Non, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'aurais acheté quoi qu'il arrive, quoi. Quelle que soit la sélection. Voilà.
Mais alors, regarde les étoiles qui est dans ses yeux.
Moi, la question.
C'est-à-dire
question
que c'est ma petite Madeleine de Proust, quand même. Cette manette aussi inoubliable, putain.
Romain.
La question que je me pose, c'est l'avenir maintenant, la N64 Mini, s'il y a N64 Mini. Quels seront les jeux? Et parce que là ils nous ont sorti Star Fox 2 de derrière les fagots, parce qu'il y avait Star Fox 2 avait leaké sur la toile il y a des années, mais pas dans une version aussi avancée que ça en fait. Là Nintendo a balancé la version la plus aboutie, et donc c'est un truc un peu inédit, genre pour les historiens, les collectionneurs, tout ça, avoir Star Fox 2 officiellement, c'est aussi un argument de vente de la SNES Mini. S'ils font ça avec la N64,
il y a du jeu,
qu'est-ce qu'ils vont
64,
pouvoir nous sortir
tous les jeux du 64 DD.
Ah, les jeux 64
les
DD inclus.
Giant, ouais.
Ah, mais ils ont jamais été traduits ces trucs-là, donc
ça ferait du boulot.
Tu peux pas les sortir en japonais chez nous. C'est ça fonctionnerait
pas. Le F-Zero avec le track editor.
Il y avait Mario Artist, etc. Enfin, je sais pas.
Alors, ce qui serait cool, c'est le Resident Evil 0 version N64. Mais je pense pas que Capcom l'ait terminé ce jeu-là, donc ça serait.
Non, mais du côté de chez Rare, il y avait pas les trucs qu'ils avaient annulés au dernier moment.
Final Fantasy 17.
Ouais. Non, mais ça c'est
chez Square.
Ouais, mais ils l'ont jamais développé Final Fantasy VII.
C'était juste une
démo technique. C'était une démo technique.
Une démo technique, hein.
Et en plus, c'était des personnages
une démo technique.
Du 6 en plus. Donc,
mais faut voir. Faut voir aussi s'ils arriveront à se mettre d'accord avec Rare.
Qu'est-ce qu'il y a comme jeu culte qui est jamais sorti sur N64, tu vois.
Mais il y a peut-être des choses qui ont été en développement dont on n'a pas les connaissances.
Ouais.
C'est ça, des trucs par exemple qui sont passés de la N64 au GameCube discreto. C'est
Tu lâches le GameCube comme ça.
Ouais, le GameCube.
Absolument. Le GameCube. Et après, est-ce qu'on aura le droit à un Game Boy Mini? Je ne sais pas. N'est-ce pas, Poufy? Le Game Boy Mini.
On vient d'entendre Traz, excusez-nous. Ça n'a rien à voir. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toute l'actualité qu'on souhaitait traiter.
Il vient de tuer l'enfant Traz, je crois.
Cette semaine. Si vous avez évidemment envie, vous, dans les commentaires de ce podcast, de revenir sur Red Dead Redemption 2, Shenmue 3 ou les tests dont on vient de parler, n'hésitez surtout pas.
Toutes les conneries qu'on a dit,
les commentaires
et
sont
tous les succès que vous
là-dessous.
Avez.
On se retrouvera évidemment la semaine prochaine. Je vais d'abord remercier Julo.
C'est bon, je peux aller jouer à Forza 7.
Thomas, Romain
et, moi, je joue quand, Cuphead,
et Poufy à la sono. Et puis moi, je vais retourner jouer à Battle Chasers. Et puis on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre podcast. A plus!
Des bisous!
Salut. Ciao!
Salut à tous!